Alors, Guillaume Collard, je fais partie des trois associés de l'école. Donc, je suis un ancien de Solvay, pour ceux qui ne connaissent pas, entreprise belge en chimie, très présent dans le coin, entre autres visible depuis le périphérique avec une jolie boule. J'ai exercé là-bas pendant une dizaine d'années et je m'occupais de la cybersécurité IT du groupe, avec aussi les volets de conformité, tout ce qui touche au militaire, loi de programmation militaire, tout ce qui touche à l'export, dual use et privacy. Voilà. J'ai exercé ça avec mes deux autres associés. En fait, c'est là où on s'est rencontrés. On a exercé 3 ans, mais ils avaient une vie parallèle avant. Donc, Thomas Guillou, qui a commencé dans la cybersécurité nucléaire et qui a rejoint le groupe Solvay. Il est spécialiste Cyberindus. Et Patrice Chélim, qui lui est plutôt GRC, qui était RSSI du groupe. Voilà. Donc, on est partis tous les trois l'année dernière, suite à, après 5 ans, avoir tenté de recruter, de monter des formations à gauche, à droite, des chaires Indus avec des écoles privées ou avec des écoles publiques et des grosses difficultés à pouvoir monter ces formations, surtout des formations qui nous correspondaient. On arrivait vraiment à aller au niveau où on souhaitait pour avoir des personnes qu'on estimait opérationnelles. On a décidé de quitter nos fonctions pour partir et monter notre école nous-mêmes. Alors, ça s'est fait simplement début 2021, quand avec une école, une énième, avec qui on tentait de travailler, je dirais le nom, nous a dit « Non, mais si vous voulez monter ce type de formation, le plus simple, c'est de monter vous-même. » Bon, bah, on l'a pris au mot et on l'a monté nous-mêmes. Le kick-off officiel du projet s'est fait le 17 juillet 2021. Voilà, donc il y a 15 mois, c'était le kick-off. À l'époque, j'avais pas d'équipe, pas de sous, pas de bâtiment, pas d'élèves, pas de programme, tout allait bien. Donc voilà, 15 mois plus tard, on est dans cet immeuble qu'on a entièrement réhabilité. Les travaux ont commencé le 1er avril, c'est pour ça que je vous prie de m'excuser s'il y a encore des coups de peinture. On a essayé de faire au mieux. L'objectif qu'on s'était donné, c'est 100 d'étudiants cette année, voilà, répartis sur 2 promos qui sont en septembre et en février. On a volontairement découpé les promos puisqu'en fait, on travaille en partenariat avec des groupes qui bossent dans la cyber ou pas d'ailleurs, comme Schneider, comme PwC, Accenture, Google, etc., qui nous aident à former des gens. Donc, ils les accueillent dans leurs entreprises en fait pour les former. Avec eux, on a déterminé un rythme. Donc, tout a été co-construit, programme, type de formation et le rythme. Donc, on a un rythme d'alternance, 1 mois, 15 jours. 1 mois en entreprise, 15 jours. Un mois en entreprise, 15 jours à l'école. Avec une petite particularité, c'est qu'on a un énorme bootcamp, en fait, en début, qui est l'équivalent d'une prépa. Alors, les étudiants souffrent un peu en ce moment. On fait en sorte qu'ils ne lâchent pas, n'est-ce pas, Guillaume? Il y en a une récemment qui nous a dit, qui avait fait médecine avant. Donc, vous voyez, on a des reconversions et qui dit, j'ai l'impression d'être en fac de médecine, mais doublé d'une prépa école de commerce. Donc voilà, c'est un petit peu dense. On leur fait tout revoir et on ne s'arrête pas qu'à la technique. Pour moi, ce qui est important en cyber, et je pense que c'est un peu je m'avance, j'espère que ce sera le même message que vous allez passer, c'est toute action cyber, c'est avant tout une réponse métier et un besoin business. C'est une fonction support, hein, on est en impact et influence en cyber. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas école d'ingénieur, on est école de management. Alors, on a une vocation internationale et école de management, ça ne veut rien dire à l'étranger. Hein. Management school, c'est pas très compréhensible. C'est pour ça qu'on a la dénomination business school. C'est aussi pour rappeler qu'il n'y a pas que l'aspect technique, il y a aussi de la stratégie, il y a de la conformité. Et il y a d'autres choses que de la pure technique, même s'il y a un gros volet technique. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai montré des éléments où, malgré tout, derrière, sans technique, vous ne survivrez pas. Mais c'est pas suffisant. Et c'était un peu ce qu'on reprochait, nous, dans notre fonction, quand on recrutait des gens, c'est que des fois, ils nous amenaient des Rolls-Royce technologiques, néanmoins, qui ne répondaient pas du tout à l'enjeu business et à la stratégie métier. Et c'est plutôt ça qu'on veut apporter. Donc, petite spécialité de l'école, elle est gratuite. Donc, pour favoriser l'accessibilité, les étudiants ne payent pas. On fonctionne en inversé. Il n'y a pas de cours magistraux. J'ai adoré mes années d'études, j'ai détesté mes années de cours. Globalement, après les cours c'était sympa, mais les cours en eux-mêmes, écouter pendant 4 heures quelqu'un me faire un cours magistral, c'était pas ce qui me plaisait le plus. Ce qui me plaisait, c'était de tester, pratiquer, faire des choses. Donc là, c'est ce qu'on fait. On fait les classes inversées. Donc ils arrivent en cours, ils ont vu la théorie, Et quand ils sont ici, par contre, c'est pour pratiquer. Et pratiquer, pour nous, c'était aller au bout de la chose. Pour apprendre à piloter un avion, on met dans un simulateur et après, on met dans l'avion. Bah, c'est pareil. Pareil en médecine, hein, au bout d'un moment, vous allez à l'hôpital hein, pour pratiquer. Bah, on voulait faire pareil en cyber, c'est on vous met dans un simulateur cyber et on va aux extrêmes, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait imaginer, on le fait. On se bloque sur rien et c'est comme ça qu'ils apprendront. Donc, on est un peu, on se débride là-dessus, ce qui fait que les étudiants, pour la plupart, s'amusent, même s'ils souffrent. Et au final, c'est ça le plus important pour nous. Voilà, donc mon mot d'intro, Pierre-Antoine. Et je suis, alors on est membre de la DIRA, on est heureux de vous recevoir aujourd'hui ici. Je suis heureux de vous faire découvrir le bâtiment, même si pas fini. Si vous souhaitez, vous avez des questions à échanger, n'hésitez pas, on sera ravis de répondre à quoi que ce, toutes les questions. Et je passe le micro.
Bienvenue dans cette présentation qui s'intitule « À la découverte des exercices Red Team ». En fait, quand on va sur Internet, quand on regarde les médias, on se rend compte qu'il y a pas mal de bonnes choses qui sont dites sur les Red Team, mais il y a aussi pas mal de mauvaises choses. Il y a pas mal de confusion et le but de cette présentation, c'est de lever toute cette confusion-là et de mettre au clair concrètement ce que c'est et en quoi ça le différencie des audits qu'on peut voir d'habitude. Il y a ça qu'on va voir dans un premier temps, mais on verra aussi, on vous emmènera avec nous dans notre quotidien de Red Teamer et vous montrer comment on part de rien, si ce n'est le nom de votre entreprise, pour aller jusqu'à la compromission de votre réseau interne et l'atteinte de nos objectifs. Mais avant d'aller plus loin, je vais commencer par me présenter, comme la coutume se veut. Donc, je m'appelle Simon Juel, consultant en sécurité offensive depuis 5 ans chez Cogiceo. Ça veut dire que mon métier, c'est de faire majoritairement des tests d'intrusion et des red teams. En plus de ça, je suis chef de projet d'audit, donc j'accompagne les clients sur la réalisation des audits de A à Z, on va dire. Et voilà, j'aime bien aussi donner des formations et parler devant un public comme ça. Ça, c'est pour ma présentation. Je vais laisser Sylvain prendre le, t'as un micro, prendre le relais sur la présentation de l'entreprise.
Si, je l'espère, fonctionne, ça a l'air. Moi, je suis Sylvain Lecomte, donc certains m'ont déjà vu à la DIRA en intervention. Moi, je suis l'un des deux fondateurs de Cogiceo. On a monté cette boîte il y a 10 ans maintenant. On est 25 collaborateurs. On est basé d'origine à Paris et il y a un an, on s'est fait ouvertement draguer par la DIRA, ouvertement, hein, faut le dire, pour venir à Lyon. Alors, on a travaillé beaucoup et je suis très content, je vous écris en avant-première, notre nouvelle adresse de nos bureaux à Lyon, au 5e étage du 57 boulevard Vivier-Merle. C'est la tour, si on peut l'appeler tour, Gémélion, qui est juste à côté de la grosse tour qui est en train de se construire. On a un bureau qui va pouvoir recevoir à peu près 7 personnes, on a déjà 3 personnes qui sont embauchées. On a un ancien Parisien qui descend revivre à Lyon, et on a deux nouvelles recrues, et on compte bien continuer à progresser sur Lyon. Il y a beaucoup de travail aussi ici, et c'est vrai que on a envie de s'étendre sur plein de sujets. On fait des interventions dans le monde entier. Ça, on a déjà fait le tour du monde. On est allé au Canada, on est allé en Australie, on est allé à Hong Kong, on a fait des missions un peu partout, en Afrique, enfin vraiment. Nos clients nous envoient dans le monde entier, c'est assez marrant. On est vraiment spécialisé dans la partie audit technique de sécurité informatique. Alors, donc désolé, non, en fait, on ne va pas trop parler orga, ce n'est pas notre tasse de thé. Nous, on est vraiment orienté sur la partie technique. Donnez-nous n'importe quoi, on le pirate, c'est ça qui nous fait plaisir. On essaie d'avoir des consultants le plus certifiés possible. Et l'une des certifications qui est intéressante, c'est l'OSCP. On en a un petit paquet qui l'ont et il y en a qui continuent à l'avoir. Petit point d'attention, on a une qualification PASI RGS. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas PASI, c'est la qualification délivrée par l'ANSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et il y a deux volets, il y a la partie RGS qui est le premier niveau, et nous on a également depuis un an la partie LPM qui est la loi de progression militaire qui nous permet d'aller travailler sur des SIV ou des SI avec homologation. On a les 5 portées, donc on couvre l'ensemble, et sur les 25 collaborateurs, il y a à peu près 20 personnes capables de faire du test d'intrusion, hein, il faut un peu la direction l'assistance pour faire tourner toute cette boutique. Et sur la vingtaine, on a à peu près 11 personnes dans les bacs qui peuvent faire des audits PASI, RGS, et de plus en plus qui pourront faire du LPM. Mais ça dépend de la DIRISI et des enquêtes administratives qui durent pendant des heures. Et puis, deuxième volet qui est assez nouveau pour nous cette année, qui n'est pas vraiment, on officialise notre CCIRT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le CCIRT, c'est un CERT. C'est une réponse à incident. Ça fait des années qu'on fait ça, mais on le faisait que pour nos clients. Parce qu'il faut être un peu organisé et puis il faut connaître un peu les vulnérabilités dans le réseau de nos clients pour les aider quand ils se font pirater. Et là, on ouvre officiellement notre CCIRT. On a réussi à débaucher quelqu'un du SOC de EDF, donc on est assez content. C'est un mec passionné également par cette partie et on va monter en puissance sur ça. Donc, si jamais un jour vous êtes piraté, il ne faut pas hésiter, il faut nous appeler, on pourra vous aider. Bon, vraiment très rapidement, c'est juste pour vous situer la boîte et après on passe à la partie vraiment dans le dur. On fait essentiellement du pentest, de l'audit de sécu qui est vraiment très technique, test d'intrusion, de l'audit de conf, de l'audit d'archi, un peu d'orga aussi et du code source d'application. Et à côté, on a un gros volet Red Team. Il y a pas beaucoup de boîtes qui peuvent se targuer de dire qu'ils font du test d'intrusion physique. Nous, on en fait et d'ailleurs, on verra, c'est souvent malheureusement une grosse réussite. On fait du test d'exposition internet, on va faire du test d'intrus en interne dans le réseau. À côté, on a donc ce gros volet forensique de la levée de doute, de la gestion d'incidents, de l'analyse de malware, de l'hunting dans vos réseaux. Quand vous faites pirater, il faut qu'on débusque un peu les attaquants. On a un volet automatisé de scan. On a mis tout notre cerveau et toute notre expérience dans des petits robots qui sont devenus au fil de l'eau des applications en tant que telles, orientées autour de l'analyse des domaines, autour de l'analyse des Linux, autour de l'analyse des applications mobiles, des extensions de navigateurs et de l'exploration Internet, donc de tout ce que vous exposez sur Internet. Ça nous permet d'adresser notamment des très grands comptes et de trouver toutes leurs filiales et tout ce qu'ils exposent, toutes leurs sous-marques. Voilà. C'est très pratique, bien entendu, d'origine. C'était un peu notre outil de Red Team. Puis au fur et à mesure, c'est devenu autre chose. Puis à côté de ça, on fait un peu de la formation, vraiment de la formation technique, plutôt orientée 3 jours, 50 à 60% de TP, 40% de théorie. J'avoue que la théorie, ce n'est pas toujours super intéressant. Pratiquer, c'est pas mal. On apprend aux gens à pirater et après, c'est beaucoup plus facile pour eux pour comprendre comment ils se défendent. Voilà.
Donc pour reprendre la main, et pour introduire ce sujet, on va revenir un petit peu en arrière, dans les années 2000. Et dans les années 2000, quand on nous présentait les pirates, c'était souvent des gens avec le masque de Anonymous, un chapeau noir, un manteau, qui restaient dans leur cave et qui passaient leur journée à pirater des bases de données, qui les revendaient sur le dark web, etc. Ça, c'est ce qu'on nous vendait dans les médias et dans les films, par exemple, dans les documentaires également. Mais on se rend compte que c'était un petit peu différent dans la réalité. Si on revient justement dans les années 2000, la sécurité n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. On avait beaucoup de sites web d'entreprises qui étaient exposés et qui présentaient beaucoup de vulnérabilités. Et c'était pareil pour les réseaux internes. Ce qui fait que, comme le niveau de difficulté pour exploiter une vulnérabilité aujourd'hui, c'est pas très compliqué, ça permettait à des jeunes initiés, à des novices ou des attaquants purement opportunistes de compromettre des sites web et d'attaquer des entreprises, de voler les données et de les revendre éventuellement. Donc de se faire un peu d'argent, il y avait aussi un peu une quête à l'ego chez les jeunes personnes qui pirataient pour dire voilà, on est un peu les rois du monde de l'informatique.
Sachant que dans les années 2000, je pense que le firewalling périmétrique, c'était pas ça. Clairement, je pense que des bureaux à distance exposés sur le net, il devait y en avoir un sacré paquet.
Ouais, c'était assez fréquent. Et les entreprises, du coup, elles ont su répondre à ces menaces. Elles ont mis en place des moyens organisationnels, comme par exemple les politiques de sécurité, la mise en place de VPN, les audits d'architecture et organisationnels. Il y a aussi eu des audits techniques très liés aux tests d'intrusion, scans de vulnérabilité. En fait, tout ça, ça a limité la surface qui était exposée auparavant. Ça a permis de fermer les vannes qui étaient ouvertes et accessibles aux plus novices, en fait. Maintenant, du coup, comme le niveau des entreprises a évolué en termes de sécurité, alors tous les jeunes qui pirataient comme ça pour s'amuser ont été vite découragés. Mais il y a des gens qui ont quand même conservé leur motivation et qui se sont dit les entreprises élèvent leur niveau de sécurité, on va essayer d'aller plus loin et on va essayer de quand même les pirater. Ce qui n'était pas chose facile et ce qui est toujours pas chose facile. Alors, des fois, c'est très facile, mais c'est de plus en plus rare quand même. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que ces personnes-là se sont organisées et on n'a plus seulement affaire à un pirate opportuniste derrière son poste, mais vraiment à des groupes d'attaquants. Des groupes d'attaquants qui sont organisés et qui vous visent pour des raisons particulières. C'est pour ça que j'aime bien la slide qui suit, où ça vous présente un petit peu un résumé des types d'attaquants. Donc avant, on avait les unsophisticated attackers, les attaquants non sophistiqués, qui vous attaquaient uniquement parce que vous étiez exposé sur Internet et parce que vous étiez vulnérable, présentiez des vulnérabilités, parce que mauvaise configuration, des serveurs obsolètes, ce genre de choses. Donc ça, c'est le type d'attaquant que je vous décrivais. Il y avait aussi un peu ce type d'attaquant-là qui sont décrits comme sophistiqués, mais encore, ils vous attaquaient parce que vous étiez vulnérable sur Internet et qu'il y avait un peu de valeur derrière tout ça. Souvent, le gain financier, vu que le premier, peut-être, allait juste changer l'interface de votre site web, ce qui avait un impact à l'image de marque. Mais voilà, derrière, il n'y avait pas de vol de données ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est les deux types d'attaquants qu'on retrouvait beaucoup, qui ont été quand même relativement limités. Le troisième, je ne vais pas en parler. En revanche, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle les APT, le quatrième point, qui vous attaque non pas seulement parce que vous êtes exposé, mais qui vous attaque pour ce que vous êtes, pour la valeur que vous avez et votre entreprise, en fait. C'est plus on vous attaque parce que c'est facile d'accès, mais on vous attaque parce que vous avez de l'intérêt à nos yeux. C'est surtout ça. Et donc, ces groupes-là, on les appelle les APT. Un poster de Kaspersky qui avait été publié en 2020, il présente un peu dans le détail les APT, où ils sont situés géographiquement. Donc, il y en a beaucoup en Chine, en Russie aussi, quelques-uns en France. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces groupes d'attaquants, ils attaquent plus des petits sites web comme ça, un peu aléatoirement sur Internet. Ils vont vraiment cibler des milieux précis. Ça va être des gouvernements, des banques, de l'industrie. Il peut y avoir encore plein d'autres choses, mais de l'énergie. Il y a aussi les IT et les télécommunications, pardon, qui sont des cibles de choix pour les attaquants parce qu'en général, bah, comme on le dit, il y a de la valeur derrière ces entités-là.
En sachant que ce qui s'est passé aussi comme phénomène, c'est qu'il y a un système de supply chain qui s'est mis en place. Bah, très simplement, quand je veux atteindre une entreprise, bah, je vais peut-être regarder aussi tous ses prestataires, je vais attaquer ses prestataires pour avoir un peu un accès, et ainsi de suite avancer. Du coup, on n'est plus juste sur des très grosses entreprises qui se font attaquer, il y a aussi des plus petites entreprises qui se font attaquer dans un intérêt d'y aller. Et le mouvement autour de l'économie et donc de l'espionnage économique, c'est désormais le numéro un des origines de ces attaques, et c'est même identifié. Je discutais avec la DGA, c'est pour eux le risque numéro un aujourd'hui des entreprises en France. C'est cette attaque qui vise à voler de l'information pour être concurrentielle sur le marché. Bien entendu, il y a des grandes plaques qui sont concurrentielles à l'Europe et qui cherchent à attaquer les entreprises européennes.
Mais il y a des chercheurs qui ont fait un effort quand même assez incroyable, qui ont analysé tous les malwares qu'ils ont pu recenser et qui font une cartographie du comportement de ces attaquants. C'est un peu du profiling, mais à l'échelle de ces groupes d'attaquants-là, où on va prendre... Alors, il faut savoir qu'ils utilisent des noms très originaux, Backdoor Diplomacy, Black Tech, Bronze Butler, c'est assez original, mais bon, pourquoi pas. Et ils utilisent tous des techniques qui sont recensées et qui vous permettent du coup, d'avoir ce profil, enfin, pas générique justement, mais ce profil typique des attaquants et de ces groupes d'attaquants surtout. C'est une petite parenthèse. Maintenant, on a vu quand même que les entreprises avaient fait énormément d'efforts pour renforcer leur sécurité. Et on peut se demander bah, pourquoi ça marche encore, le fait qu'il y ait des gens qui arrivent à rentrer dans notre entreprise, à nous voler de la donnée sensible, à faire de l'extorsion de fonds, etc. Selon moi, ça se base sur cette séparation qui est que les attentes, en général, sont différentes de la réalité. Il y a quelques exemples, mais nous, ce qu'on voit dans notre quotidien, c'est les entreprises qui vont nous dire bah, « on a déployé à 100%, on a un taux de couverture de 100% de l'EDR sur notre réseau, EDR antivirus, donc la solution qui vous protège face à certaines menaces. » Et on se rend compte que dans la pratique, il y en a que 80%. Le taux de couverture est de 80%, ce qui fait qu'il y a 20% de serveurs qui ne sont pas protégés. Et de base, ça en fait une cible de choix pour les attaquants. Nous, c'est ce qu'on va cibler dans notre quotidien. Pareil, alors il y a d'autres exemples, j'imagine que vous avez eu le temps de les lire, mais le dernier exemple m'intéresse particulièrement parce que c'est plus un exemple humain, on va dire. On dit qu'il y a un système de détection en temps réel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais dans la pratique, on voit que c'est une équipe de 2 personnes aux 35 heures qui se retrouvent à filtrer les mails sur une boîte mail avec énormément de faux positifs. Et donc là, il y a du déni de service humain.
C'est ça. Je pense que tous vous avez été approchés par des supermarketeurs qui vous vendent un produit, qui vous fait tout, le café, le micro-ondes, magnifique, qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont capables de vous prévenir. L'attaquant, il cligne des yeux, hop, ça vous lève une alerte. Ouais, sauf qu'en fait, en face, derrière, vous n'avez pas les ressources pour gérer ça. Donc déjà, là, il y a un problème. Vous dépensez beaucoup d'argent, c'est une boîte noire, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. Nous, quand on audite ça, parfois, on fait un exercice. On refait le match à l'envers, hein, forcément. Et en fait, on se rend compte, je crois qu'un jour, on a fait un red team. On aurait pu être détecté 2 mois avant notre entrée dans l'entreprise si quelqu'un avait fait le travail pour lequel il était payé. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il ait les moyens de le faire. Donc, on était juste au milieu d'un flot immense de mails. Ça avait levé une alerte. Personne n'avait jamais regardé. Donc, ça, c'est un conseil. Mettez les moyens humains en face avant d'acheter un super truc qui vous fait tout. Parce qu'en fait, derrière, après, c'est les hommes qui y travaillent. Enfin, c'est comme ça que ça marche dans une entreprise.
Et du coup, c'était tout pour cet état de la menace. Un exercice Red Team, avant même d'arriver à la définition, il faut le remettre dans le contexte. Beaucoup croient que c'est issu du monde de la cybersécurité, mais en fait, pas du tout. C'est issu du monde militaire et de ce qu'on appelle les wargames, donc des jeux de simulation, entre guillemets. Donc, il faut savoir que les États-Unis, la défense et les militaires mettent en place des moyens humains, techniques, des stratégies, des procédures pour protéger leur pays. Mais ça sert à rien de mettre tout ça en place si c'est pas testé. C'est un petit peu comme le PCA et le PRA. Si c'est pas testé régulièrement, bah, il n'y a pas trop d'intérêt à en faire. Ou si ce n'est que de créer de la documentation éventuellement. C'est les militaires qui font ces procédures et ces documentations et qui veulent les proof tester, les mettre à l'épreuve. Et pour cela, ils ont créé ce qu'on appelle une OPFOR, Opposition Force, qui dans notre jargon s'appelle la Red Team, dans leur jargon aussi d'ailleurs. Mais ils utilisent les deux termes de façon interchangeable. Et le but, c'est de tout simplement mettre un autre groupe de militaires qui va challenger tout ce qui a été mis en place et s'assurer que tout est en ordre, ou même mieux, essayer de contourner tout ce qui a été mis en place pour justement faire un feedback bénéfique à la défense.
Tout le monde voit à peu près de quoi on parle. Vous l'avez déjà, je pense, entendu. Ils sortent la totale. Hein. Ils ont les porte-avions, les sous-marins, ils font tout. Et rien n'est bien précisé des deux bords. Et du coup, il y a tout cet aspect. On ne sait pas ce qui va se passer. Et il y a toujours des nouveautés avec des nouvelles technologies. Ils se tirent dessus avec des balles de peinture, hein, je vous rassure. Et voilà, c'est pas mal.
Donc, si on en vient à définir un red team, pardon, ça vise à simuler un attaquant extérieur motivé ayant un ou des objectifs précis. D'ailleurs, c'est un attaquant, un groupe d'attaquants, une menace plus largement. Les objectifs précis, ça va concerner du vol de données stratégiques, de l'extorsion de fonds, du pillage, de l'espionnage, déni de service. Tout à l'heure, s'il va en parler, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et moi, il y a un terme que j'aime bien dans le jargon américain, c'est l'adversary emulation. Ça décrit bien ce que nous, on fait. On se met dans la position d'un attaquant extérieur et on va essayer vraiment de compromettre toute votre entreprise. Il y a cet effet clairement de surprise. Un red team, c'est pas du tout prévu. Enfin, il y a des gens dans l'entreprise qui sont au courant, mais la plupart des personnes ne sont pas au courant vu que ça nous est arrivé récemment dans une mission où on a dit on vient faire un test d'intrusion la semaine prochaine, et du coup, l'administrateur système a changé tous les mots de passe le vendredi. Donc bon, nous mettre des bâtons dans les roues comme ça pour un pentest, c'est pas hyper sympa, vu que le but, c'est quand même de vérifier la sécurité de vos réseaux. Dans les red teams, justement, on prévient pas, et comme ça, on n'a pas ces embarras.
Faut préciser que la personne en question a cassé la production en changeant tous ses mots de passe le vendredi, en disant « c'est pas grave ». Je réglerai ça après. Mais il a vraiment, puisqu'il a changé les comptes de service, et forcément, je pense que tout le monde a déjà tenté de faire ça. Il se passe des gros problèmes. Donc, effectivement, il y a des mots de passe qui ont été changés. Après, il a eu des petits problèmes quand même. Hein. Il s'est fait un peu taper sur les doigts. Surtout un vendredi.
C'était pas mal audacieux. Là, c'est la liste des audits que tout à l'heure, on vous a présenté. Ce qu'on faisait dans l'entreprise, c'est ce qu'on voit même le plus souvent, et peut-être que vous êtes habitué à voir ce genre de proposition quand on veut faire des audits, vous allez avoir les scans de vulnérabilité, les tests d'intrusion, audits de configuration, audits de code, etc. Ça, c'est des audits on ne peut plus classiques, en tout cas dans notre milieu. Ils ont tous un seul but, c'est de réduire la surface d'attaque. Si on prend l'exemple du scan de vulnérabilité, ça va vous remonter tout un ensemble de vulnérabilités. Votre but après, c'est de les corriger avec les recommandations qu'on vous a fournies. Et dès que c'est corrigé, dans un mois, trois mois, six mois, quand vous relancez un nouveau scan, en théorie, les vulnérabilités, elles sont plus présentes. Donc, la surface d'attaque a été réduite. Un Red Team, ça s'écarte un peu de ça et on va servir du test d'intrusion. Là, vous avez un beau tableau comparatif sur différentes métriques. Alors, les métriques se complètent un peu les unes aux autres, mais on va prendre l'exemple du test d'intrusion et du Red Team à côté. Le temps, par exemple, le test d'intrusion, en général, c'est environ 1 à 3 semaines. Le Red Team s'étend sur un temps beaucoup plus long. Ça va de 1 à 6 mois. Les compétences requises pour un Red Team sont aussi un peu plus élevées parce qu'il y a des contraintes de, je sais pas si vous le voyez, mais de discrétion. Ce que je disais, on ne doit pas du tout se faire détecter par le client. Et si on se fait détecter, on a plus de chances de se faire détecter si on met des gens novices sur le sujet. Si on met des gens expérimentés,
c'est mieux. Si on prend un exemple très clair, dans un test d'intrusion, vous allez nous dire, j'ai 500 serveurs, faites votre vie, dites-moi, nous, on va potentiellement venir et les scanner en entier, regarder un peu tout ce qu'il y a. Ouais, sauf que si demain, en Red Team, on scanne 500 serveurs, vous risquez de nous voir passer quand même. Logiquement, ça va lever quelques petites alertes, on va dire, pas forcément de sécurité, hein, mais juste de bande passante. Voilà. Et ça, c'est pas discret. Donc ça, on peut pas se le permettre en Red Team. Donc s'il faut qu'on soit discret, on prend notre temps. Et si on prend notre temps, c'est long.
Et par conséquent, c'est ce qui fait que le prix d'un Red Team est aussi un peu plus élevé, c'est un euphémisme, mais c'est plus élevé que le prix moyen d'un test d'intrusion. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les deux derniers paramètres, les deux dernières métriques, objectif et périmètre. En fait, le test d'intrusion, si vous connaissez, c'est en fait restreint à un périmètre précis. Ça va être une application web, un réseau interne, ou un
ordre wifi, serveur, un smartphone, une application mobile, c'est très...
Exactement, c'est très, très précis, très, très restreint en fait. Et comme je disais, le but c'est d'identifier et qualifier les vulnérabilités pour réduire ensuite la surface d'attaque avec des corrections adéquates. En revanche, le Red Team, lui, ne s'intéresse plus à un périmètre précis, mais ça s'intéresse à toute l'entreprise au global. Alors bien sûr, il peut y avoir des limites qui sont définies lors de la définition des besoins clients.
Les handicaps, c'est ce que tu veux.
Le handicap.
Ouais, souvent on nous met des handicaps, sinon c'est pas drôle.
Et donc on doit, comme ça à l'échelle de l'entreprise, certes on va passer par de la compromission de sites web, compromission de réseau, et on va essayer de compromettre des systèmes tout au long de nos chemins. Mais la compromission est pas un but en soi, c'est un moyen pour atteindre des objectifs qui ont été définis par le client. C'est ça en fait la grosse différence selon moi entre un Red Team et un Pentest. Le Pentest est beaucoup plus cloisonné, alors que le Red Team est beaucoup plus large et on a beaucoup plus de liberté d'action.
Alors vous allez de votre côté l'appeler le butin, le trophée, le pompon. Il y a certains qui le nomment le pompon. J'imagine, on est au manège, on essaie d'attraper le pompon là-haut. Mais habituellement, c'est souvent dans la partie stratégie. Ça peut être le compte-rendu du dernier COMEX avec les fusions-acquisitions de la structure. Ça peut être le plan social. Ça fait mal aussi parce que parfois, on peut malmener une entreprise en ayant des informations sur un plan social en amont. Ça peut être le virement symbolique d'un euro qui parfois passe vraiment trop facilement et qui du coup affole un petit peu. On avait fait un virement symbolique d'un euro et il a mis 8 mois à être détecté quand même. Le RSSI s'est fait engueuler hein, parce qu'il a viré un euro de manière illégale. C'était quand même... ça peut être vraiment beaucoup de trophées. Il y en a un qui nous a demandé d'arrêter sa production, un industriel. Il nous a dit « je voudrais que vous arrêtiez notre production ». Quand on a eu le doigt sur la main, sur le doigt sur le bouton pour l'arrêter, il a appelé le PDG de la boîte. Je vous parle d'une boîte de plus de 100 000 personnes. Le PDG, il a tellement tremblé qu'il a dit « non, on ne va pas faire ça. On ne va pas le faire. Là, ça va trop loin ». Et pourtant, c'était l'origine. Hein. Ils ont signé le contrat pour ça. Hein. Nous, on y allait. C'est bon, on a le doigt sur l'automate. Là, on arrête tout. Et finalement, on n'a pas arrêté. Mais voilà, on a fait un joli screenshot, on peut le faire. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est très galvaudé le mot Red Team. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent un Red Team et qui veulent en fait juste un test d'intrusion interne. Alors, il y en a qui nous parlent du test du stagiaire. C'est très péjoratif pour les stagiaires, les pauvres. Mais en gros, il faut vraiment bien comprendre la différence. Ça sert à rien de venir nous voir et nous dire « je veux un Red Team, mais finalement, je veux juste un test d'intrusion sur ce réseau-là très précis et vous le faites de 9h à 18h, de tel jour à tel jour ». Dans mes locaux avec mon admin réseau sous le nez. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est pas un Red Team du coup. C'est un test d'intrusion, il faut être bien clair.
Pour dire que dans notre arsenal de Red Teamer, on va utiliser bien sûr ce que je disais, notre compétence de pentester. On va peut-être des fois utiliser de l'audit de code, vu qu'on récupère du code source d'une application. Autant l'analyser et se dire peut-être que ça va nous permettre de mieux comprendre une application et de la compromettre. Mais on va surtout utiliser d'autres types d'audits qui sont beaucoup moins fréquents, comme les intrusions physiques, le phishing mail, USB, Wi-Fi, social engineering. Et bon, vous avez la liste ici, ça ne sert à rien de vous l'énumérer et de vous la lire. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que souvent dans les audits courants, on traite de l'aspect technique, alors que dans ces audits-là, on va beaucoup traiter du facteur humain. On va vraiment essayer d'exploiter le facteur humain avec du social engineering ou du phishing mail. Et c'est souvent ça qui fait que les red teams marchent aussi. C'est parce que le facteur humain est moins bien géré. La technique a vraiment beaucoup évolué ces derniers temps. Mais le red team, lui, exploite l'humain.
Ouais, tout le monde a entendu parler de Uber, le piratage qu'il y a eu. Tout le monde est au courant de l'histoire un peu ou pas? Ouais, donc, il y a des accès qui ont été achetés sur le dark web. Donc, très vulgairement, un username et un password pour accéder à un VPN. Et comme il y avait la 2FA, génial, il fallait confirmer. Et que le prestataire en question, forcément, il s'est pris des SMS pour dire il faut confirmer ton accès. L'attaquant, il a utilisé WhatsApp pour le contacter, se faire passer pour l'IT de Uber et lui dire vous inquiétez pas, on doit vérifier quelque chose, merci de nous transmettre le code, et ça s'est fait. Donc il y avait une super protection de l'entreprise, il y avait un vrai travail de sécurité qui avait été fait, et puis au milieu il y a eu le facteur humain, et du coup il y a eu un mélange de social engineering, de phishing, et boum badaboum, premier accès. Et après, à partir de là, l'absence de défense en profondeur, c'était réglé, c'était une autoroute pour prendre le contrôle de Uber. On se débrouille. L'audit de code, souvent, on va se retrouver avec des morceaux de code source d'application qui sont déposés sur GitHub par le prestataire qui a un mec dans son équipe qui veut faire de l'open source et qui a déposé. Et puis, ça nous est même arrivé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert le code d'une application mobile, on a trouvé des creds, des accès de SSH dedans. Ça nous est arrivé plein de fois, des commentaires avec bug to fix. Enfin, il y a vraiment, on voit beaucoup de choses. Donc, on se débrouille, on fait de l'osint, on va chercher toutes les informations et à partir de là, on analyse.
Dire que ça permet de simuler une attaque pour un groupe d'attaquants motivés extérieurs qui vise votre entreprise pour ce que vous êtes et pas justement parce que vous êtes tout simplement exposé. On n'a pas de limitation dans le périmètre et ça permet aussi de démontrer des scénarios réalistes d'attaque. Vu qu'on a beau mettre en place pas mal de mécanismes techniques pour se protéger, le Red Team permet de les mettre à l'épreuve et de dire, OK, on a fait tous ces efforts, mais un attaquant, finalement, il est passé par d'autres moyens, il a trouvé des moyens de contournement. Et donc, on a peut-être mieux à faire maintenant d'investir notre budget sur ces parties-là qui ont péché et ces chemins-là que l'attaquant a employés.
Ne nous demandez pas de l'exhaustivité, parce que souvent, c'est la question qui arrive, on fait la restitution. Mais il y en a beaucoup des situations comme ça dans mon entreprise? Aucune idée. Mais nous, on en a trouvé une, on l'a exploitée, terminé. On ne sait pas vous dire, c'est pas un pen test ou c'est pas un test d'intrusion, enfin c'est pas un audit complet où on va tout regarder, on n'a pas le temps. Déjà, le temps, c'est l'ennemi.
Ça fait partie des inconvénients de ce genre de mission. Hein. Enfin, le temps, c'est très coûteux en temps, ça prend beaucoup de temps. Comme je disais, ça peut. En général, nous, on essaye de les caler sur 3 mois. Ça peut arriver que ça aille jusqu'à 6 mois parfois, et même des fois, on a des limites beaucoup plus longues. Mais on essaye d'avoir quand même une date de début, une date de fin. Surtout que le client veut savoir où est-ce que ça en est. Donc,
si vous vous demandez pourquoi c'est aussi long, c'est parce que chaque semaine, on met en place des jalons. On va le voir en détail, mais on a une partie où on va faire de la collecte d'informations. Après, on va faire de l'exploitation de l'information. On va monter des scénarios de phishing. On va les lancer. On va attendre que ça morde à l'hameçon. Parfois, on va le faire en plusieurs phases pour pas éveiller les soupçons. Donc, forcément, ça demande un peu de temps. On n'a pas des gens qui vont être temps plein à 100% sur le sujet. On va faire ça par phase. Il va y avoir un mec qui va travailler en équipe, ils vont être deux, ils vont bosser pendant 2 semaines, ils vont commencer à lancer des petites actions qui vont donner des petits, d'autres spécialistes vont venir, intervenir, hop, encore pendant 2 semaines, et ainsi de suite. Et oui, du coup, ça va commencer à faire plusieurs mois. Mais normalement, le client est au courant et on se met d'accord sur un délai.
Voilà pour cette fiche de synthèse. Maintenant, les motivations pour faire Red Team. On en a déjà un peu parlé tout au long de cette présentation et avec les différentes interventions, mais c'est bien d'éventuellement les rappeler. Le premier but d'un Red Team, c'est de mettre à l'épreuve la maturité en termes de sécurité de l'entreprise. Ce que je disais juste avant, voilà, on a fait des efforts. Est-ce que ces efforts, ils sont suffisants? Est-ce qu'ils sont nécessaires? Et est-ce qu'on doit investir dans la sécurité dans d'autres endroits de notre réseau, de notre infrastructure ou dans tout notre SI de manière générale? Ça va être aussi le moyen de tester la capacité de vos process, outils et même personnes, voir s'ils réagissent de manière efficace. Là, on parle des mauvais élèves, entre guillemets, mais ça nous arrive souvent d'avoir aussi des bons élèves qui nous détectent. On en reviendra après dessus, mais il y a une cellule d'arbitrage entre le client et nous. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on considère que c'est terminé? C'est des scénarios qui peuvent arriver. Et c'est bien justement de pouvoir tester les pieds humains, finalement. Il y a le moyen aussi, si vous en avez qu'une, de tester votre blue team et votre capacité à détecter des attaques. Ça revient sur l'exemple de la boîte mail qui finalement est monitorée, mais il n'y a pas les moyens derrière pour assurer la sécurité de pour gérer les alertes qui sont relevées.
Il y a des gens dans la salle qui ont une équipe dédiée à la détection d'intrusion. Dédiée, ça veut dire une personne à temps plein sur le sujet. Ouais, pas beaucoup. Je vois deux têtes qui hochent. Trois. Ouais. Tout, c'est à peu près du temps mutualisé où c'est réparti. C'est un administrateur qui s'en occupe quand il a le temps de regarder le dashboard ou la boîte à lettres. Bon, c'est normal. Hein. J'espère que ça progressera encore, mais.
Que dire de plus? Ouais, l'autre, c'est oui, ça, on en a déjà parlé. Mais surtout, un point qui est intéressant, c'est de faire bouger les choses auprès de la direction. Des fois, avoir les résultats d'un exercice Red Team, et comme le disait Sylvain, quand on arrive vraiment à mettre la main sur des choses sensibles, il y a une prise de conscience qui se fait et il y a vraiment un effet boule de neige de ce Red Team-là. Ça fait ça, même parfois un électrochoc. Et du coup, derrière, ça permet de débloquer du budget ou tout simplement d'avoir une prise de conscience.
Nos meilleurs copains, c'est l'audit interne, l'inspection générale dans les banques. Souvent, ils arrivent avec leurs gros sabots. Ils leur disent « Ah ouais, vous pensez que vous êtes prêts ? Pas de problème. On va aller chercher des spécialistes et on va vérifier. » Et souvent, le PDG, à la fin, j'ai vu un PDG qui a rien dit, qui a fait venir la DSI, qui leur a demandé de représenter un petit peu les objectifs qui s'étaient fixés, les réussites qu'ils avaient. Et quand les mecs se tapaient bien fort le bide, il leur a dit « Sinon, on a fait un red team sans que vous le sachiez et voilà les résultats. » Ouais, souvent, là, le DSI, il tombe un peu de sa chaise et il accuse le coup. C'est moche, c'est vraiment moche. Moi, je préviens toujours les audits internes et les inspections générales que c'est pas forcément très, très bien de faire un enfant dans le dos. Mais eux, souvent, ils sont là « Oui, mais c'est comme ça qu'on doit le faire. » Et ils ont pas tort. Parce que s'ils les préviennent, les gars, ils sont rivés sur leur log pendant 2 mois, là, ils font plus que ça. Bon, c'est dur pour eux. Souvent, on est détestés après. Hein. Nous, ils veulent plus jamais nous. On fait plus de tests d'intrusion pour eux, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est terminé, ils veulent plus nous voir.
Maintenant, vous pouvez vous dire d'ailleurs que les Red Teams, c'est. On vient à la question qui avait été posée. On peut se dire que les Red Teams, c'est seulement dédié aux personnes qui ont justement une capacité de détection et qui ont vraiment une grosse maturité en termes de sécurité. Ça peut être dédié, ça dépend comment on veut le faire. Dans le monde du Red Team et dans notre jargon à nous, il y a différents types de modèles. Il y a les modèles qu'on appelle full engagement. C'est un peu ce dont je vous parle depuis le début. On va vraiment essayer de compromettre toute la boîte sans aucune limite, quelques handicaps éventuellement, mais nos restrictions sont vraiment infimes par rapport à tout ce qu'on peut faire. Donc, tous les moyens sont bons pour atteindre nos objectifs. L'inconvénient, c'est que c'est coûteux, mais par contre, c'est très exhaustif. Enfin, c'est très réaliste. En revanche, on peut définir des périmètres un peu plus limités, ce qui s'appelle le Assumed Breach Model, Wi-Fi Breach Model, Physical Breach Model. Alors, derrière tous ces noms se cachent des images qui seront un peu plus parlantes. Le Assumed Breach Model, c'est le fait de dire on commence notre Red Team à partir comme si on avait volé le poste d'un client, ou alors comme si une personne avait exécuté une charge virus sur son poste et qu'on avait pris la main sur son poste, et on part de là. En gros, on part d'un poste Windows dans l'entreprise et on voit jusqu'à où on peut aller et est-ce qu'on peut atteindre les objectifs, les butins, etc.
Ça s'apparente comme à du test d'intrusion interne, mais il y a toujours l'idée d'être discret, que personne soit au courant et que ça soit vraiment du Red Team.
Et le Physical Bridge Model, juste à côté, c'est à peu près pareil, sauf que cette fois, on nous dit, bon, vous avez accès physique à vos locaux, à nos locaux, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc là, en général, on se balade de bureau en bureau, essayer de chercher s'il y a des post-it à droite à gauche avec des mots de passe, se brancher sur les réseaux, contourner les mécanismes de qui nous empêchent d'avoir une adresse IP automatiquement. Et une fois qu'on est dans le réseau, bon, on se propage, on suit nos méthodologies classiques de Red Team. Après, on peut avoir des packs un peu plus élaborés selon le besoin. Ça reste encore dans le domaine du Red Team. On s'en écarte pas, on n'essaye pas d'aller dans la partie pentest. Mais par exemple, pour les fusions et acquisitions, je sais d'expérience que pas mal de personnes nous disent « on a acheté une entreprise, mais on veut s'assurer que quand on l'intègre dans notre réseau, qu'il ne se fasse pas pirater après coup ou qu'on ne se fasse pas pirater à cause du fait qu'eux se soient fait pirater ». Bah d'ailleurs, c'est marrant, des fois, c'est au moment d'intégrer l'entreprise, par une analyse forensique, qu'on voit que finalement, c'est peut-être pas l'intégrer maintenant. Il y a des traces de compromission qui datent d'il y a 2 ans, on va peut-être temporiser. Et pour en revenir à ce sujet-là, sur les fusions et acquisitions, on va faire une cartographie externe de toutes les cibles qui sont exposées, essayer de rentrer par des sites web ou des serveurs qui sont exposés sur Internet et qui seraient vulnérables, et ensuite continuer sur la partie interne. Ça, c'est un pack qu'on fait pour les fusions, pour les gens qui souhaitent faire des fusions et acquisitions et qui permet déjà de passer en revue la sécurité, on va dire globale, périmétrique et même un petit peu interne d'une entreprise que vous souhaitez intégrer. L'autre pack qui va nous intéresser aussi, c'est les physical packs. Ce qu'on fait, alors on le fait rarement, mais quand on le fait, ça a un bon impact. En général, les gens misent sur la sécurité de leur infrastructure, de tout le côté IT, mais ils misent pas trop sur la sécurité physique. Et quand on fait un phishing USB, une intrusion physique, un social engineering ciblé et un pentest Wi-Fi, on agrège tous nos résultats. En général, on voit qu'il y a pas mal de trous dans la raquette.
Alors, tu dis pas pourquoi on le fait rarement, parce qu'on nous autorise rarement à le faire. Très clairement, moi qui fais pas mal d'avant-vente technique, je vais souvent le proposer et il y a souvent un raclage de gorge. Ouais, alors mettez-le en option parce que c'est vrai que sur ça, on n'est peut-être pas super à l'aise. Voilà, moi je peux vous dire que je suis rentré dans quasiment 100% des cibles qu'on a fait en test d'intrusion physique. On peut en faire jusqu'à 2 voire 3 par an. Ça fait 13 ans que je fais ce métier, donc vous imaginez à peu près. Et puis alors, ça peut être de la grande banque, même de la PME, j'ai tout fait. Hein. Je suis passé par des fenêtres, j'ai déposé des clés USB dans des parkings, je suis rentré par des parkings, j'ai fait tout sauf les cheminées, je crois. Et voilà, j'ai vraiment fait. Donc voilà, la compromission physique. Souvent, les gens nous posent la question de savoir qu'est-ce que ça représente en fait. Parce que moi, chez moi, c'est un bunker, personne ne rentre. Bon, il faut se rendre compte que la compromission physique, ça peut être. Moi, je peux payer un personnel d'entretien 1000 euros pour qu'il branche juste un petit truc sur un poste. Hein, ça me coûte pas cher. C'est facile à faire. Bon, souvent, nous, on ne fait pas ça. On se déguise tout simplement. Ça marche très, très bien aussi. Ou alors, on rentre avec beaucoup d'aplomb. Je me souviens de partir en Asie. Là-bas, l'homme blanc est roi. Il a l'argent. Et donc, on ne lui pose pas de questions. Ce qui est quand même assez ridicule. Et du coup, je suis passé par les ascenseurs de service. Personne ne m'a rien dit. Les ascenseurs de service, vous vous doutez bien, ils étaient derrière la partie authentifiée sans passer par une authentification. Il y avait une porte de sécurité, hein, où il y avait marqué en anglais « doit toujours rester fermé », a été grande ouverte, il y avait un caillou par terre, enfin, c'était parfait quoi. Mais c'est un classique, sauf que là en face c'est une banque, donc on rentre dans une banque, tranquille. C'est très problématique, je pourrais vous en parler pendant des heures d'intrusion physique, il y a vraiment beaucoup de choses, et aujourd'hui à chaque fois qu'on le fait c'est 100% de réussite. Et contourner les protections des prises réseau, mais c'est d'une facilité affolante. On va en parler, je crois, un peu plus loin.
Il y a toute une partie, je te laisserai t'éclater. et donc là, on arrive vraiment sur la question, quand est-ce qu'on peut faire un Red Team, finalement? À qui se destinent les Red Teams? À quel public? Alors nous, on a mis tout un tas de facteurs qui nous semblent importants, mais c'est surtout de dire, voilà, si vous avez jamais travaillé votre sécurité, si vous en êtes au niveau zéro, ça sert à rien de commencer par un Red Team. Ça serait sûrement... surfait, c'est bien de commencer à mettre de la sécurité sur les éléments critiques, à faire des tests d'intrusion, à s'assurer que vos politiques et vos procédures sont bien évaluées et bien testées aussi. Ça, c'est du travail qu'il faut faire en amont, avant un Red Team. Et une fois que votre sécurité commence à être un peu à rouler et vous avez confiance dans la sécurité de votre SI, là, vous pouvez le mettre à l'épreuve. Là, ça va être intéressant de faire un Red Team. Voilà, j'essaye de voir ce que j'avais mis sur cette slide, vu que je m'en souviens plus totalement. Il y a le côté régularité du budget de sécurité qui compte. Si vous avez très très peu de budget une année et un gros budget une année d'après, bah, ça sert à rien de tout le dépenser dans un Red Team. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus, plus intelligent.
Pour la faire simple, hein, si vous présentez à votre direction 50 000 à 100 000 balles de propositions pour faire un Red Team et que c'est la première fois que vous présentez un budget d'audit de sécurité, il risque de tiquer quand même. Je pense qu'ils vont se dire, oula, quand même, tu me demandes un gros ticket direct. Donc voilà, la régularité, c'est bien aussi. Quand vous avez l'habitude de faire des tests d'intrusion, ils ne sont pas étonnés qu'à un moment, vous tentiez quelque chose d'un peu.
Et puis, que dire de plus là-dessus? Oui, dernier point, pas à la fin de l'année, parce qu'en fin d'année, en général, nous, on a tous les budgets des équipes de sécurité qui nous tombent dessus, qui nous disent, bon, bah, on veut réaliser cet audit. Si on nous dit en plus, il faut nous faire un Red Team avant la fin de l'année, Sylvain, tu vas devoir nous payer des heures sup, beaucoup d'heures sup.
Et c'est surtout que, on peut pas embaucher aussi vite que les besoins se présentent à nous. Alors. Ouais, en plus, il fait froid et quand on est en planque, parce que vous, là, c'est le côté fun, machin, mais moi, des fois, je planque dans des bagnoles pendant longtemps, là, à regarder avec des jumelles, à écouter, à capter du wifi et tout. On est la nuit à attendre. Quand il fait dégueulasse, moi, j'ai déjà fait du test d'intrusion physique. Quand il pleut, c'est pas drôle, je vous le dis. Franchement, c'est pas drôle.
Simple slide pour vous présenter quels seront les acteurs si un jour vous faites du Red Team avec qui vous échangerez. Donc, bien sûr, il y aura la Blue Team qui correspond au SOC ou au SIEM, à votre capacité de détection, mais aussi aux ingénieurs sécurité et les administrateurs. Eux, en théorie, ne sont pas au courant de notre intervention. Je dis bien en théorie. On espère. Du côté Red Team, il y aura le Red Team Leader qui fera l'intermédiaire entre les gens qui ont commandité le Red Team et la Blue Team. On espère qu'il y aura le moins d'arbitrage, entre guillemets, surtout de résolution de conflit entre les deux équipes, vu que s'il y a conflit, ça veut dire qu'on s'est fait détecter. Et le but, c'est pas non plus de faire que les situations s'enveniment. Faut temporiser. C'est bien, justement, d'avoir un arbitrage. Et derrière tout le travail de fond, il y a les Red Team Operators qui, eux, s'occupent de pirater et de passer leur journée à essayer de rentrer chez vous.
Alors, l'arbitrage, il peut servir aussi à éviter les dead ends. Nous on va vouloir creuser, je me souviens d'un client qui nous a dit le but c'est que vous trouviez le CRM, je sais plus, je crois que c'était le CRM qui s'occupait justement des fusions acquisitions. On a trouvé 4 CRM de fusions acquisitions différents dans la boîte et on avait trouvé quasiment 15 CRM différents dans la boîte. Alors il nous a dit oui, c'est vrai qu'on n'est pas les champions de la centralisation, et du coup chacun fait un peu son projet dans son coin, et c'est bien de pas passer 4 jours à pirater un CRM pour se rendre compte qu'en fait c'était pas la bonne cible. On lui dit nous on est aux portes de celui-là et il nous dit c'est pas le bon et on fait ok, hop, on passe au suivant. C'est un peu plus, ça peut permettre aussi d'économiser le, parce que le nerf de la guerre ça reste le budget, donc d'orienter un peu l'attaquant. Et à l'inverse, sur l'arbitrage, le SOC, quand il détecte un truc et c'est arrivé une fois où il voulait appeler la gendarmerie, peut-être que c'est bien que l'arbitre lui dise « calme-toi, je maîtrise, c'est moi, appelle pas les gendarmes, déclenche pas les hostilités ». Il y avait même un client, il avait déjà contracté auprès d'un CERT, il était prêt à signer 50 000 balles de prestations pour savoir comment il s'était fait pirater et l'arbitre lui a dit « stop, c'est l'exercice ». On le sait, en fait, ils sont passés par là il y a déjà 3 semaines en arrière, donc ça on maîtrise, on sait ce que c'est. On dépense pas de l'argent au courant. Alors nous, dans les 2 derniers qu'on a fait dans l'année 2021-2022, dans les 2 derniers, c'était le PDG directement qui était bien entendu le demandeur officiel et c'était plutôt l'audit interne. Donc ni le DSI ni le RSSI étaient au courant de l'exercice.
Enfin, dernière slide pour cette partie théorique, et je pense que je vous apprendrai pas grand chose, c'est juste les étapes qui se déroulent lorsqu'on fait un Red Team. Ça commence par une phase de pré-exécution, on va définir justement les objectifs, vos butins, vos pompons, comme tu disais. On va définir tout ça avec vous pour répondre au mieux à vos besoins. On va définir aussi les rôles, les responsabilités de chacun, les handicaps aussi.
Les filiales qu'on touche pas.
Aussi, ouais. Ça, on en reparlera après, justement, vu qu'on fait toute une cartographie des filiales et des prestataires à qui vous pouvez faire appel.
Souvent, les handicaps, ça peut être vous n'avez pas le droit de venir dans les locaux, machin, parce qu'on sait que c'est une passoire. Classiquement, vous pouvez faire de l'intrusion physique. Par contre, vous ne touchez pas au moulin avant, là, le truc public où on reçoit tous les jours plein de gens et qu'en fait, on a des portiques qui sont cassées. Et du coup, on sait que vous pouvez rentrer comme vous voulez. C'est le genre de handicap. Ça peut être aussi, vous touchez pas à notre Wi-Fi, vous touchez pas à nos personnes. On a des gros problèmes si vous faites du social engineering. Un handicap qu'on a souvent, interdit de faire du phishing sur un mouvement social. Ah oui, parce que ça marche plutôt pas mal. On avait fait ça sur une semi-public, semi-privée. On envoyait votre perco va être réduit. Alors là, le plan d'épargne retraite. Ah, mais ils ouvrent hein, direct. Donc, merci. Alors, on avait fait un truc gros. On avait mis un truc très gros où on avait une macro. C'était volontaire, c'est le client qui a demandé. Une macro qui permettait de recalculer la perte estimée. Et les gens l'exécutaient. Ils étaient là, quoi, on va perdre des choses. Le client nous avait demandé de faire quand même quelque chose qui était vraiment... ça démarrait par camarade, virgule, et on envoyait un Excel. Voilà, c'était vraiment fort. Et quand le scénario était prêt et qu'on l'a envoyé, il nous a dit, ma direction s'y oppose. Je ne peux pas, on n'assume pas. En fait, là, on va avoir un mouvement social, même si derrière, on dit que c'était une simulation, ça va être terrible pour nous. Donc, handicap. C'est rabattu sur quelque chose de plus sympa. Hein. Des vacances à gagner, un iPad.
En général, pour les phishing, on a pas mal de scénarios dans nos poches. Et pour l'anecdote, si vous cherchez un peu sur Internet, il y a des gens qui s'amusent à recenser tous les prétextes de phishing qui peuvent être utilisés. Alors, ça s'applique beaucoup au système États-Unis, mais il y en a aussi pour les Français, les prétextes de phishing qu'on peut utiliser et qui ont des chances de marcher. Il y a des projets open source pour ça.
Le dernier en date était assez rigolo. On a trouvé sur Internet un système de référencement d'un nouveau prestataire de service. C'était une feuille Excel. C'était parfait. Avec une macro intégrée. C'était parfait. Et on a juste cherché l'adresse à laquelle il fallait l'envoyer. C'était facile. Hein, c'était dans l'Excel. Et ce document n'était pas censé être sur Internet. On l'a récupéré, on l'a rempli, on a créé une fausse boîte, un faux industriel de je ne sais pas quoi qui faisait des pièces. On a rempli toutes ces informations, on a envoyé ça à la boîte aux lettres en disant ben voilà, on ne comprend pas, votre macro elle ne marche pas, on a fait un screenshot d'une erreur fictive. Et bien entendu, la personne a exécuté la charge pour vérifier et nous a dit ah ben oui, vous n'avez pas la bonne version, il vous faut la nouvelle version. Pas de problème, on a repris la nouvelle version, on a remis notre charge à l'intérieur, on lui a renvoyé, il a réexécuté, c'était magique. Et il était, c'était une boîte fonctionnelle en plus, c'était worldwide et c'était un mec au fin fond, mais je ne sais plus, l'Inde, le Mexique, nickel. Vraiment facile et tout ça depuis du ramassage sur Internet, un Excel par terre quoi.
Obtenir un accès initial dans votre réseau, ensuite on se propage de manière furtive, on ne se fait pas détecter, ça on en a déjà parlé, et ensuite on localise et on atteint les objectifs. Enfin, dernière étape, c'est analyse des failles, présenter un beau rapport, vous l'envoyez et vous présentez les résultats.
Je crois qu'on s'est fait...
Ça nous arrive de nous faire détecter.
Oui.
Nous arrive de nous faire détecter.
Pas y arriver, non.
Pas arriver à atteindre des objectifs, des fois c'est... D'expérience, ça peut être complexe, mais on trouve toujours des moyens... un peu tarabiscoté pour y arriver. En fait, on va être plutôt limité par... Il va y avoir pas mal de sécurité périmétrique. Une fois, on avait été limité justement parce qu'on devait faire un transfert de fichiers et on l'a uploadé sur le drive. En fait, on n'arrivait pas à le transférer de machine en machine. C'était une image disque, en fait, donc c'est assez volumineux. On voulait le transférer d'une machine à une autre, puis d'une machine jusqu'à le retourner sur Internet. Ça ne marchait pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a uploadé directement sur Google Drive.
Parce qu'en fait, Google.com était l'un des seuls domaines autorisés aussi.
C'est ça.
Et que donc, du coup, c'était une bonne porte.
Sauf qu'on s'est fait détecter parce que le trafic réseau
a augmenté d'un coup.
Et bon, on aurait pu y penser, mais ce jour-là, on était, on avait l'appât du gain. Hein.
Ouais. Bon, le mal était fait, hein, on avait sorti la donnée. Hein. La donnée en question, pour ceux qui se posent la question, c'était le NTDS du domaine qu'on devait viser. Donc, c'était la base de données de l'ensemble de l'AD. Voilà. Bon, le mal était fait, mais c'est vrai que le trop de volume nous a...
Et à titre d'exemple, dans les, je crois que c'est dans les 4 heures qui ont suivi, on avait perdu nos accès distants. Mais après, on en avait redéposé.
Ouais, on avait perdu les accès principaux. On avait gardé quelques petites backdoors à droite à gauche au cas où ça arrivait. Ça, c'est l'un des premiers trucs qu'on fait. Hein. On stabilise nos accès et on ne les touche plus, on les garde de côté, on passe par d'autres endroits.
Bah, du coup, on avance sur la partie dans les coulisses d'un exercice Red Team. Là, on vous emmène avec nous. C'est quelque chose qui se divise en trois étapes en général. La première, c'est j'irai dormir chez vous. Comment on va rentrer chez vous et se taper l'incruste. Ensuite, ça va être attrape-moi si tu peux pour rester chez vous sans nous faire détecter. Et ensuite, une fois qu'on a bien élargi notre champ d'action dans votre réseau, bah, on va essayer d'atteindre nos objectifs et de chasser les choses qui ont de la valeur à vos yeux. La première étape du j'irai dormir chez vous. Et il y a beaucoup de phases qu'on va utiliser. On va passer dans un premier temps par de la collecte d'informations publiques, que ce soit de l'information organisationnelle, donc sur votre société, ou alors de l'information technique sur ce que vous exposez sur Internet, sur vos adresses IP, vos serveurs, etc. Et en fait, cette collecte d'informations, elle n'est pas sans but. Le but, c'est soit d'établir des attaques de type phishing, faire de l'intrusion externe, donc compromettre un serveur qui est disponible sur Internet, ou alors établir des scénarios de pentest Wi-Fi, de phishing USB ou d'intrusion physique. Et justement, là, il y aura pas mal d'anecdotes.
Ouais, repérer vos bâtiments, ça prend un peu de temps, en fait, mine de rien. Il faut les repérer, savoir lesquels sont les plus fragiles, les plus vulnérables. C'est assez marrant tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Vous allez voir, d'ailleurs.
Ouais, alors sur les informations publiques et les informations organisationnelles en particulier, ce qu'on va chercher, ça va être déjà votre structure. C'est quoi son nom? C'est quoi le nom de ses filiales? C'est quoi le nom de ses acquisitions? On va essayer vraiment de faire une cartographie de votre société au global. Pas seulement du nom de votre société, mais de tous ceux qui s'attachent à votre société. Et en partant de ça, on va du coup identifier plusieurs organisations. De ces organisations, on va chercher les personnes qui sont dedans. Quels sont leurs rôles et leurs responsabilités? Bah, qui est la responsable des ressources humaines? Qui est dans le COMEX, qui est dans la direction, etc.
Qui est le RSSI qu'il ne faut pas qu'on croise?
C'est ça. Donc, on va chercher toutes ces informations organisationnelles. Puis ensuite, on descend sur la partie email et numéro de téléphone. Pour du phishing ou du social engineering, c'est déjà une première information qui va nous être indispensable. Et on verra qu'on peut trouver ce genre d'informations assez facilement. Et ensuite, quoi d'autre? Le nom de fournisseurs et des clients, bah là, c'est encore pour élargir notre impact. En fait, on essaye de faire une cartographie la plus complète possible, d'avoir le plus d'informations pour augmenter nos chances de trouver une brèche. Si on part d'un tout petit périmètre, on va avoir peu de chances de trouver une ouverture. Typiquement, nous, des fois, ça nous arrive, on nous demande d'auditer une entreprise avec deux serveurs. Bah, c'est compliqué, je vous le cache pas, parce qu'il y a très peu de portes ouvertes. Mais plus le périmètre est grand, plus il y a de chances qu'on trouve une porte ouverte et qu'on puisse s'y introduire.
Que légal, ouais.
Sauf une petite partie.
Voilà. ça dépend la façon dont vous voyez les choses, mais un leak de base de données qui a été rendu public parce que vous vous l'êtes fait voler, normalement, le posséder serait illégal, mais comme nous, on va le posséder pour une raison légitime pour vous faire un service, alors ça devient légal. La nuance est ténue, hein. Mais je serais super sympa avec le juge et tout se passera bien. Enfin, j'espère.
Pour les acquisitions, trouver le nom des entités et des acquisitions d'une entreprise, c'est assez simple. Il y a des sites spécialisés comme Crunchbase, le premier site que vous voyez là. Et par exemple, pour Tesla, il nous sort d'autres entreprises donc, qui ont été acquises par Tesla avec des noms différents. Et donc là, c'est comme ça qu'on augmente notre périmètre. Sinon, il y a Wikipédia qui marche très bien.
Faites-le jouer le jeu, hein. Vous allez peut-être découvrir que vous avez une filiale que vous ne connaissez pas.
Ça nous était arrivé dans un Red Team récent où justement on avait cartographié toutes les filiales et il y avait eu une session d'arbitrage, enfin une mise au point du client qui nous avait dit « Ok, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez ?»
Et on a perdu la moitié.
Toutes les filiales et il nous dit « Ah ouais, vous avez retrouvé ça, mais pourtant ça s'est perdu au fin fond du Portugal, c'est compliqué quoi, je ne sais pas comment vous avez fait pour le retrouver. » Bah Wikipédia.
Mais non, mais ça n'existe plus. On s'est débarrassé de la marque il y a 10 ans. Il n'y a même plus de nom de domaine. Vous êtes sûr? Non, pourtant, nous, on voit beaucoup de serveurs quand même sur Internet. Bah, c'est rigolo.
Au niveau français, on a aussi le BODAC qui nous permet, quand on récupère le RCS de Framatome, bah, de rejouer ce RCS, de pivoter dessus. Et ça va nous donner des noms d'autres entreprises, donc NewNP ou encore Société Française pour le Combustible. Voilà, une des transformations possibles. Et puis, on peut aussi s'intéresser aux marques. Pareil, en réutilisant le RCS qui est ici, on va trouver des marques d'un autre nom que Framatome, mais qui pourtant leur appartiennent, comme Hollis Engineering ou Monoblock.
L'INPI qui permet de déposer une marque en particulier. Que nous, on va attaquer et les filiales et les marques. Enfin, forcément, les noms de domaines que vous allez acheter en face, c'est les deux. C'est sur les deux sujets. Je me souviens, je crois, pour un assureur automobile dans l'ouest de la France, il avait déposé un nom qui s'appelait Vichy Carotte. C'était un truc de marketing. Allez trouver que c'est un assureur automobile. Mais c'était parce que c'est la carotte pour être vigilant. Il y avait un jeu de mots, les marketeurs, ils sont comme ça. Mais voilà, c'était très difficile à retrouver. Et le site était très sympa.
Et c'est avec des techniques comme ça qui... alors, c'est de la donnée publique, hein, c'est accessible à tout le monde. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas très compliqué de cartographier une entreprise du moment qu'on a un peu qu'on connaît ces techniques-là. C'est assez simple à faire. Ensuite, pour les emails, on va se baser sur plutôt des sites de démarchage commerciaux. Par exemple, Hunter.io, là, on rentre Tesla. Pour Tesla.com, il va nous retourner 783 résultats qui sont floutés, mais si on paye, ils sont plus floutés. C'est le but. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il nous donne le pattern, j'ai plus le mot en français, le pattern. Le format, merci. Le format de l'email, donc qui est la première lettre du prénom et le nom de famille. Donc, si vous avez récupéré des personnes avec l'organigramme derrière, vous pouvez facilement en déduire les adresses email, ce qui étend encore votre panel de cible pour un phishing, par exemple. Et sinon, il y a les informations dans les sites. Hein. On voit les newsletters, quels sont qui sont les nouveaux arrivants dans la société, qui sont les nouvelles personnes embauchées.
LinkedIn, hein. Ouais. LinkedIn, dès que vous vous affiliez, on peut lister l'ensemble, c'est assez facile. Il y a même un script Python qui fait ça tout seul.
Et maintenant, on va passer à une démonstration, entre guillemets, image par image, de un scénario de phishing. Comment on construit un scénario de phishing ? Alors, pour créer un scénario de phishing, il nous faut des documents de l'entreprise. Et parfois, elle en expose sur Internet. Donc, nous, on fait une recherche Google un peu customisée en essayant de trouver pour cette entreprise des fichiers Excel, des fichiers PPT ou des fichiers doc du Microsoft Word. On en trouve et des fois, on en trouve des plutôt sympas comme une demande d'accès Citrix. Donc là, on se dit, ça sent bon. On clique dessus et puis on se retrouve sur un fichier qui nous semble complexe, mais on voit qu'il est destiné à une partie IT. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a des macros dans le fichier. Comme le disait Sylvain, ça arrive assez régulièrement. Donc, s'il y a des macros dans le fichier, il n'y a plus qu'à les modifier et nous mettre notre virus dedans. Puis, on se balade en fait dans les onglets. Hein. On regarde un petit peu, comme on a un peu de temps devant nous. Et puis, ça nous envoie des URL. Tout ce qui est flouté en bleu, là, c'est des URL vers leur GED exposé sur Internet avec, si on clique dessus, toutes les procédures. Alors, il y a beaucoup de flou, justement, pour pas divulguer d'informations. Mais il y a beaucoup de liens qui nous disent, si vous voulez accéder à telle application selon telle circonstance, il faut cliquer sur ce lien. Puis sinon, dans d'autres contextes, vous allez cliquer sur ce lien. Donc finalement, on a toutes les procédures pour dérouler un scénario de phishing bien ciblé. Et il y a même le mail qui est autogénéré, comme ça, qui nous l'ouvre dans notre client mail. Donc c'est le mail à envoyer avec le fichier qu'on a téléchargé tout à l'heure, le fichier Excel, qu'on a juste à joindre. Et il y a de fortes chances qu'ensuite ça soit exécuté. Plus qu'à attendre que la charge pop de notre côté, qu'on ait une petite notification à connexion du poste de tel client. Et c'est bon. On a notre accès initial. Ou l'accès Citrix. Alors, on parle d'accès initial. L'accès initial, ça veut dire déjà mettre un pied d'une quelconque manière dans l'entreprise, avoir un premier accès. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé vu que c'est dans notre jargon à nous, mais l'accès initial, ça veut un peu, vous pouvez rien dire, ça peut être un premier accès ou alors un accès un peu plus lointain dans le réseau de l'entreprise, avoir un pied dans une DMZ. Souvent, on passe par plusieurs accès initiaux avant d'avoir un accès stable. On a vu ces deux premières parties, collecte d'informations organisationnelles et attaques de type phishing. On va pouvoir passer à la collecte d'informations publiques, mais cette fois-ci technique. On va s'intéresser à beaucoup de choses, à tous vos sites que vous exposez sur Internet. Il va y avoir votre nom de domaine principal, mais il y a aussi d'autres noms de domaine, par exemple le nom de domaine des marques. Et ensuite, sur ces noms de domaine-là, il y a plein de sous-domaines à chaque fois. Il y a des sous-domaines qui vont être plus intéressants que d'autres. Donc ça, on va les cartographier. On va aussi cartographier alors toutes vos adresses IP qui sont exposées, toutes les adresses IP publiques qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre société, bien entendu. On ne fait pas trop le shadow IT. Tous les développeurs qui hébergent quelque chose dans leur coin, ça, on ne va pas trop le faire, vu qu'en général, ça ne nous permet pas de mettre un pied dans votre réseau après coup. Donc, on ne se focalise pas trop là-dessus. En revanche, on va aussi s'intéresser, comme le disait Sylvain, aux fuites de données, donc les bases de données qui ont été compromises. Et donc là, nous, on essaye de les récupérer pour voir si @votreentreprise.com est bien présente dedans. Et en général, avec le temps, en fait, avec les bases qui se sont construites au cours du temps, on arrive souvent à trouver nos clients.
On a quelques terras à la maison.
Et puis sinon, les dépôts de code public, ça va être intéressant parce que souvent, des prestataires mettent le code source de votre application sur Internet sans que vous le sachiez, sur GitHub, si ça vous parle. Et donc là, il suffit d'analyser le code de l'application, chercher des données sensibles dedans ou comprendre mieux l'application.
Est-ce que tout le monde connaît Certificate Transparency ? C'était une initiative qui avait été poussée notamment par Google et qui... tenter d'obliger l'ensemble des certificats à être publiés sur Internet, donc tous les certificats SSL, TLS. Et il y avait une base de référencement, donc à partir d'un nom, on avait tous les certificats qui étaient en face. Donc qui dit certificat dit FQDN et donc URL complète. Donc à partir d'un simple nom de domaine, on peut récupérer l'ensemble des URL qui ont le même certificat, ce qui est assez pratique.
Et en utilisant toutes ces données-là, alors oui, je parlais des fuites de données, je parlais des fuites de mots de passe, mais c'est aussi les fuites qu'on peut voir sur des fichiers qu'on appelle des pastebin. C'est des gens qui publient comme ça des informations qu'ils récupèrent à droite à gauche, parfois de manière légale, parfois de manière pas tant légale que ça. Ça dépend des fois. Et du coup, nous, on a des choses qui monitorent l'état, les nouveautés. Et on voit si dans les 50 derniers nouveaux pastebin comme ça, il y a le nom de votre entreprise qui apparaît. Et si c'est le cas, on va chercher les informations qui sont relatives à ça. Souvent, c'est aussi des fuites de mots de passe dedans. Sur le pentest de l'infrastructure externe, là, ça rentre un peu plus dans la technique. On va peut-être passer rapidement dessus. Mais le but, ça va être d'identifier tous les sites qui ont des versions obsolètes dans les systèmes qu'ils utilisent, tout simplement pour identifier des vulnérabilités. Sinon, ça va être tous les sites qui paraissent relativement moches par rapport à l'année en cours. On se dit qu'en général, un site web qui a un design type Windows XP, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas maintenu à jour et qu'il y ait beaucoup de vulnérabilités. Et pareil, en parlant des limites, souvent on nous dit les sites du CSE, on les attaque pas. Alors les sites du CSE sont faits à la main en général. Donc nous, on arrive rapidement à mettre un pied dessus. Puis on en parle et ils nous disent... Pas aujourd'hui, ni demain, ni pendant longtemps. N'y touchez pas. Donc, on évite de toucher à ces sites-là.
Ce qui marche bien, c'est pré-prod, recette, dev tiré en suffixe, en préfixe. Ça, en brute force, ça passe super bien. Et on se rend compte de sites souvent qui vont être protégés. Alors, pour utiliser un mot très horrible, par un HTAccess, une vieille mire à l'ancienne où il y a un login mot de passe qui est demandé. Souvent test-machin, c'est protégé par un HTAccess, c'est genre test pour rentrer dedans. Voilà. Ils l'ont exposé à un moment pour faire un test, ils l'ont oublié, boum, on a une version de test du site qui est hautement piratable. Parfait. Ouais, il y en a plein, il y en a vraiment plein.
Ouais, c'est assez courant et c'est les mécanismes de base qu'on va essayer d'exploiter dans la vraie vie.
Site de recette écrit avec R et 7, le chiffre tiré, un grand classique.
Ça marche pas tant. Enfin, en général, même alors que ce soit dans le monde des Américains, vu qu'on a beaucoup de... avec beaucoup de mots américains, mais il y a pas mal de dictionnaires français. Puis nous, à chaque fois qu'on trouve des nouveaux noms de domaine, on les ajoute à nos listes. On essaye de se tenir à jour sur les us et coutumes des administrateurs système en général.
Le PPD pour la pré-prod, ce genre de choses.
Voilà comment, par exemple, on peut cartographier. Enfin, commencer la cartographie d'un nom de domaine comme Megacorp One, qui est un domaine d'exemple, en cherchant sur VirusTotal, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez VirusTotal, qui vous permet de vous uploader un fichier. Il vous dit plus ou moins si c'est un virus. Il fait des analyses et il compare les résultats de tous les antivirus. Mais VirusTotal recense aussi d'autres informations, comme les sous-domaines. Et donc, en partant juste de Megacorp One, on peut récupérer plein de sous-domaines intéressants. Le VPN, par exemple, mais aussi le WW2, qui laisse penser que c'est un serveur web un peu qui a été laissé là. Alors, soit c'est du backup, soit c'est un truc qui est là, présent et qui est plus trop géré. En tout cas, c'est les hypothèses que nous on fait. Et ensuite, il y a de l'admin qui est intéressant, l'intranet également et surtout le test. On peut avoir certaines informations techniques aussi qui vont nous intéresser. Bon, ça, on se les note de côté, on verra si ça peut vraiment nous servir ou s'il y a besoin de passer par là. Ça, je ne vais pas m'attarder dessus, juste pour vous dire que des fois, ça, c'est le genre d'interface qu'on aime bien. Quand il y a marqué juin 2010 dans la date, on se dit ça va sûrement passer. Des fois, ça passe pas. Hein. Des fois, on est surpris. On voit finalement, il n'y a pas de vulnérabilité dessus. On ne peut pas faire grand-chose. Le truc est tellement ancien qu'on fait une requête et ça plante. Donc, on ne va pas s'y attaquer.
Ouais, ça nous arrive souvent. Ouais. Ouais. En fait, le truc, juste, il est juste cassé.
Donc, on abandonne. Mais des fois, ça marche. Et s'il n'y a pas de vulnérabilité, vraisemblablement, c'est un VPN avec de l'authentification. Il n'y a pas de 2FA apparente. Comment ?
Faible. Authentification faible. Donc ça, c'est génial. Ça, pour nous, c'est top parce que on va pouvoir en faire beaucoup de choses, quoi. On va faire du brute force, on va faire du phishing, on va faire du social engineering. Il y a pléthore de choses à faire avec ça.
Et puis, on peut très bien imaginer, comme ça date de 2010, que les mesures de sécurité n'étaient pas du tout les mêmes et qu'il n'y a pas de blocage de compte. Et ça, c'est un bonus pour nous.
Voir qu'il n'y a pas de log, voir qu'il n'y a pas d'alerte, voir que ce n'est pas intégré dans une console centrale, ça va passer sous le radar.
Et donc, pour attaquer cette mire d'authentification, il y a différents chemins possibles. Le premier, c'est de trouver des fuites de mots de passe qui traînent sur Internet, comme on en parlait tout à l'heure, et d'essayer de se connecter. Surprenamment, ça peut marcher, ça marche souvent. Ou sinon, c'est d'établir une liste de noms d'utilisateurs et de tenter plein de mots de passe différents. En supposant, bien sûr, qu'il n'y ait pas de mécanisme de blocage de compte ou de levée d'alerte, vu que c'est bête de se faire détecter comme ça. Là, je mets un petit bémol sur ça. Des fois, on dit ça se fait simplement, mais on est quand même précautionneux. Quelqu'un qui veut le faire et qui le fait à l'arrache, il va se faire détecter. S'il n'y a pas de mécanisme anti-brute force et que l'interface elle est un peu oubliée, on se dit c'est beaucoup de suppositions. C'est beaucoup de suppositions et il faut qu'on ait... En fait, toute la phase de collecte d'informations qu'on a eue avant va des fois nous permettre d'établir des scénarios un peu plus spécialisés. Mais pour répondre correctement à ta question, si on a un doute, on le fait pas.
On peut par exemple cramer un compte. Comme ça, on a potentiellement un message différent. OK, on sait qu'il y a un brute force au bout de temps. On a cramé un compte. On l'a fait avec une IP en particulier qu'on ne réutilisera plus. Et après, on peut tenter des brute force sous le radar. On lance des salves par une trentaine d'IP différentes avec une trentaine de comptes différents où on fait un essai. Puis le lendemain, on refait un essai. Ouais, ça peut être long, mais c'est rigolo. Et ça peut marcher. Pas toujours. Après, on jette un...
Mais oui, effectivement. Enfin, tout ce qui peut sembler trop incertain, on ne va pas... comme on a une cartographie assez vaste et pas mal de points d'entrée, on va pas forcément s'attarder sur lui. Si au bout d'un moment, on trouve plus rien, on se dit, on va peut-être passer par là, on va éventuellement tenter un brute force, mais ça va être une tentative toutes les... Alors, ça dépend du contexte encore, mais ça peut être toutes les 10 minutes pour que ce soit relativement discret. Et encore, on va plutôt prendre une liste d'utilisateurs et un seul mot de passe et les tenter toutes les 10 minutes avec une variation dans le temps, avec un plus ou moins 20 minutes à chaque fois. Ça peut être des scénarios qu'on envisage. Ensuite, ça, c'est les bases de données qui fuitent sur Internet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Avaya Beanpwn. Ouais. Si vous mettez votre email, il va vous dire si votre compte a été piraté ou pas. Mais nous, ça ne nous donne pas votre mot de passe, en fait. Donc, on passe plutôt soit sur nos bases de données qu'on a, soit sur le dark web.
Si vous aviez un mot de passe en 2014 sur LinkedIn, j'espère que vous ne le réutilisez plus parce que LinkedIn, la base complète a été sortie. Elle est apparue en 2016 en entier, mais elle date de 2014. Voilà, juste pour info. Il y a plein d'entreprises. Si vous connaissez LastPass, ils se sont fait pirater trois fois. Les clés master, ils ont dit non, elles ne sont pas sorties. Oui.
Et pour donner une petite anecdote vis-à-vis de ça, des fuites de mots de passe, ce qui est marrant... Et surtout pour remettre ça dans le contexte de ce qu'on a vu avant avec la collecte d'informations vis-à-vis des personnes, des fois, c'était votre email perso en général qui est mise sur LinkedIn. Donc, on a le mot de passe perso de la personne sur LinkedIn avec son @gmail.com par exemple.
Mais si on rejoue ce mot de passe sur son adresse pro, bah, des fois, ça marche. Donc, voilà un autre scénario qui peut être mis, enfin, qui permet de voir à quel point est utile la collecte d'informations qui est derrière tout ça. Et ben maintenant, c'est ton moment. Voilà. Intrusion et physique, si tu souhaites en parler.
En rapide, parce que le temps s'écoule. Bon, l'intrusion physique, c'est un truc un peu particulier. Hein. Il faut être un peu fou pour faire ça. J'ai la chance d'avoir fait 4 ans de théâtre dans ma vie au conservatoire. J'ai jamais passé l'examen du conservatoire. Je voulais faire de l'informatique, aucun rapport. Mais du coup, on va faire un peu d'informations publiques. On va essayer de faire de la cartographie de vos bâtiments en diurne. On va aussi faire de la cartographie des bâtiments en nocturne. Quand on fait l'impasse sur le nocturne, souvent, on a des surprises. Je me souviens d'une caméra qu'on n'avait jamais vue parce qu'on n'avait pas fait le diurne et qu'on a fait le nocturne et inversement. C'est compliqué. Souvent, les bâtiments, ils diffèrent. Hein, ce qui se passe la journée ou la nuit. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, 80% on rentre plus la journée que la nuit. Mais la nuit, c'est intéressant. Comme je vous dis, je suis déjà rentré par un toit. Et c'est vrai que c'est pas discret si on monte sur le toit et qu'on saute dans une salle de réunion. Voilà, j'ai déjà fait ça. Bien entendu, on a sauté dans la seule salle de réunion qui n'était pas sous alarme. Voilà, on a tout piraté. Puis on est reparti. On a empilé des meubles, des bureaux, des tables pour ressortir. Et on a prévenu notre client à 1h du matin. Il regardait le foot et il attendait notre appel. Et on lui a dit, bah, demain, essayez d'être là le premier parce que ça va flipper un peu quand même dans la boîte. Voilà. On parle d'une entreprise qui fait de la R&D pour une énorme boîte. C'est une toute petite structure de 30 personnes. Rentrer deux jours, c'était impossible. Enfin, vraiment, on a fait le tour. Passer la porte et se retrouver face à la personne de la réception. Tout le monde connaît tout le monde. Impossible de rentrer deux jours. C'est pas possible. On pouvait franchement pas se déguiser, il n'y avait aucun scénario. Par contre, de nuit, on est rentré comme dans du beurre. Donc, la cartographie de nuit est importante. Après, il y a les tentatives d'intrusion, hein, forcément. Et puis, il y a l'installation d'un implant réseau, de l'accès du document, de l'exécution de clés USB automatisées pour mettre de la charge, ouais, pléthore de trucs. Donc, on va regarder rapide.
En fait, dans la pratique, on voit surtout que c'est plus simple de suivre une personne et de l'accompagner et de faire un bon sourire.
Ouais.
Que d'essayer de crocheter les portes.
Le fameux tailgating, ouais, exactement. Tail de la queue et le gating, la porte. Bon. Voilà, on peut trouver des trucs très sympas. Ça, c'est exposé sur Internet. C'est Shodan, c'est la caméra d'un chantier naval. Voilà, c'est sympa. On peut voir le passé, le présent. C'est magnifique. Il y a plein de caméras comme ça exposées sur le net qui nous servent à faire du repérage sans même se déplacer. Ça, c'est des vrais documents. Hein. Ça, c'est une raffinerie, très certainement, potentiellement, sur un site Céveso. Ça n'a rien à foutre sur Internet. On a déjà prévenu, bien entendu, cette photo, normalement, disparaît. Il y a énormément de données techniques. On vous en a flouté certaines parce qu'il y a le poste de sécurité, les gardes, les caméras, la totale. Hein. C'est du multicouche. C'est génialissime. On en trouve plein des plans comme ça. C'est pas beau. Ce plan, il sort d'un site du gouvernement qui fait un appel d'offres public et qui présente le résultat de son étude. Et voilà, on a des plans, c'est moche. Ça, c'est un peu le 2.0, là, le 3.0, le même, le 2022, des populations TikTok. Un stagiaire qui dit « je suis internship, donc je suis en stage, je suis le social media coordinateur en France ». Et puis, bah, petite présentation avec mon petit badge. Je suis fier de mon badge. Nous, c'est trop bien. On va pouvoir prendre ce badge et le reproduire. En plus, on a trouvé l'organigramme. Du coup, on peut mettre un vrai prénom, une vraie photo. Enfin, il y a tout à faire. Et puis, on a même son ordinateur qui est filmé. Vous l'avez déjà tous vu à la télé où ils sont en train de faire un reportage et il y a le mot de passe écrit au-dessus. Eh bien, nous, ça, c'est pépite pour nous. C'est génial. Pareil, réseaux sociaux, ça, c'est Instagram. Pareil, un gros badge, toutes les informations. Alors, nous, il faut dire qu'on planque souvent pour chercher les badges apparents. Souvent, on fait même les bars autour des entreprises. Ça marche plutôt bien. Voire, on peut leur voler. Ça nous est arrivé de récupérer le badge accroché comme ça, là. Bon, c'est super facile à récupérer. Hein. Franchement, on fait sans tomber, on récupère le badge, on s'en va, on a un badge. C'est génial. Ça se fait vraiment super facilement. Et la plupart des gens, il faut juste attendre. Ils vont passer 1h30 au bar, ils vont boire 3 pintes, et c'est réglé. Hein. Leur attention, elle est... Je vous parle même pas des gens qui se baladent avec leur ordinateur portable, qui vont aux toilettes et qui le posent devant. Je vous parle pas des gens dans le train, ça, on s'en fout. Même là, c'est le bar d'à côté. Hein. C'est vraiment le bar classique où tous vos employés vont.
Et tout notre challenge dans ces situations, c'est de justement ne pas suivre ses employés et de ne pas boire.
Donc effectivement, le crochetage, le tailgating, c'est un grand classique. Le tailgating, ça, c'est génialissime. Ça marche vraiment beaucoup. Je suis rentré dans plein de banques, dans plein d'industries avec ça. Ouais, c'est... Dernièrement, on est rentré quand même avec un... On a fait du tailgating, on est rentré avec un gilet jaune acheté au Noroto du coin, 2,50 €. Après avoir fait un repérage dans chez un industriel, il fallait juste avoir un gilet pour entrer. Et bien entendu, il y avait la porte externe, enfin, la porte qui était dans la cour intérieure, qui permettait d'aller fumer, une pierre posée, et ben, il suffisait juste de sauter une petite grille très très loin dans la cour intérieure, et du coup, on avait l'impression qu'on venait de l'intérieur. Donc, on a fait ça entre midi et deux quand il n'y avait personne, et quand tout le monde est revenu fumer sa clope à 14h, ben, après, on a suivi le mouvement, ils ont ouvert la porte, on est re-rentré. C'était facile. On était déjà là, en fait. Le gars était juste au téléphone, faisait sûrement de fumer. On a une vraie clope électronique avec zéro nicotine. Comme ça, tout le monde est content. Ben voilà.
Et puis sinon, ce qui marche bien, bah, c'est les fenêtres ouvertes. Hein. Fenêtres ouvertes au premier ou au deuxième étage. Enfin, premier et rez-de-chaussée. Deuxième étage, ça commence à faire beaucoup. On tient à notre vie aussi.
Au moins un. Même au moins un. Hein. Il y a des fois des fenêtres en contrebas qui sont un peu cachées. Voilà, c'est tout le repérage. C'est assez marrant à faire, mais c'est long. Et après, on vous installe ça. Alors ça, c'est la dernière bouture. C'est une entreprise qui s'appelle Cleanet qui fait ça. C'est tout nouveau. Et ça combine, on voulait créer notre propre implant au niveau physique. Et c'est très compliqué. Et en fait, ça existe bien. On prend un mini routeur industriel. C'est à ça que ça sert. Hein. Il a de la 4G. Il a du Wi-Fi. Il a une prise pour se brancher sur votre réseau et à la place d'un équipement. Et donc, une prise pour faire le relais. Il est sur batterie. Il peut être alimenté en USB-C, il embarque bien entendu une carte SIM et même une micro SD. C'est génial, 5000 mAh, donc on a 2-3 jours d'autonomie suffisamment pour l'utiliser. On peut le piloter à distance. On avait fait une modification, on a perdu une connexion, on est revenu sur le parking du client, on s'est connecté au Wi-Fi, on a refait notre modif en arrière et hop, on a récupéré le pont 4G. C'était parfait, on est reparti. Ce qui fait qu'en plus, même quand on a un problème, on peut revenir juste à distance. Alors, en plus, dedans, pour ceux qui connaissent, c'est un OpenWRT, donc c'est génial, ça se pilote, on peut mettre plein d'attaques qu'on connaît sur Linux. Donc voilà, ça ressemble à ça. Alors ça, c'est chez nous, mais c'était juste pour vous l'animer. Nous, on vient, on voit une imprimante, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a très certainement une exception NAC de protection. On se met à la place, l'imprimante, c'est pas grave, elle est en déni de service pendant quelques minutes. On va lancer l'attaque pour contourner le NAC. Typiquement, on va écouter les trames de l'imprimante qui est en train de s'authentifier. Et boum, on leur produit, on déverrouille, on est bien en coupure, mais en attendant, on a gagné un accès 4G. Bien entendu, le petit boîtier nous appelle sur Internet, sur des serveurs qu'on maîtrise, et ça fait qu'on est plutôt peinard, on a un vrai VPN. D'ailleurs, si vous voulez, hein, ça peut être pratique. Hein, si jamais vous voulez faire du télétravail facilement, voilà, je vous présente un petit Cleanet. Très compliqué à détecter. Bon, je ne sais pas si quelqu'un connaît les rubbers de qui. Ouais, les rubbers de qui. Nous, on en utilise plein. Faut dire que la clé twist, c'est quand même pas mal. La clé twist, c'est la clé la plus répandue au monde. Donc, acheter des petits capots comme ça avec des logos d'entreprise, ça coûte 3 francs 6 sous. Pour nous, franchement, on en achète par paquet de 100. On a un gars en Chine, il est ultra réactif. Maintenant, il a l'habitude. On l'appelle, on lui dit, tiens, c'est tel logo. Et on choisit votre logo, on le met sur le capot, on prend des rubbers de qui, on met votre capot et roulez jeunesse. On va déposer ça dans des parkings, on va jeter ça au travers des fenêtres ouvertes. Et ça s'exécute bien. On en garde dans les poches aussi, parce que quand on s'introduit physiquement, on les dépose aussi devant les machines à café. On peut les brancher. On voit des gens parfois qui se lèvent, qui s'en vont de leur poste, qui ne verrouillent pas. Hop, on l'exécute, c'est terminé. Ça ne prend pas longtemps. Ça va avoir une charge d'exécution de clavier. On a, par exemple, on peut y mettre une charge PowerShell et on va aller télécharger notre implant CNC en ligne et l'exécuter sur la machine en la posant un pied. C'est ultra discret, ultra rapide. Mais ça nous arrive de les larguer et d'attendre que les gens les connectent et ils les connectent.
Ça, c'est Wiggle. C'est pareil, quand on fait un pentest Wi-Fi, quand on essaye de trouver un chemin par la compromission d'un réseau Wi-Fi, ça arrive qu'on se balade en voiture avec des antennes pour capter tous les Wi-Fi et faire de la reconnaissance, ce qui peut être coûteux, surtout au prix de l'essence aujourd'hui. Mais on peut très bien utiliser d'autres sources d'informations publiques comme Wiggle, qui, je crois normalement qu'on n'est pas très loin d'ici, qui va nous cartographier, qui nous cartographie tous les réseaux Wi-Fi dans le coin. Et des fois, on arrive dans des salles de réunion avec un click share. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, on aura accès à plus de choses. Mais là, c'est un exemple qu'on a trouvé. Le click share, ça peut être sympa. Et des fois, ça peut ou ça ne peut pas nous permettre d'accéder à d'autres choses derrière.
Et inversement, à partir d'un nom de Wi-Fi qu'on a identifié qui vous appartient, on peut demander à Wiggle de nous ressortir tous les noms de Wi-Fi qui existent sur le monde entier identiques. Alors, c'est sûr que si vous appelez votre Wi-Fi Wi-Fi, ça va. Mais quand vous appelez votre Wi-Fi un certain truc, un identifiant très particulier qui vous correspond, on peut le repérer dans le monde entier. Du coup, ça nous permet de repérer aussi des bâtiments. Des bâtiments qui peuvent être plus ou moins connus, avec un Wi-Fi qui peut être plus ou moins discret. Nous, ça nous permet de le repérer. On sait que vous êtes là.
Donc, on arrive sur la partie attrape-moi si tu peux. Et donc, ce que je disais, une fois qu'on est dans le réseau interne, ce qu'on va chercher à faire, c'est compromettre un poste, essayer d'élever nos privilèges. En fait, on va essayer de gagner un maximum de privilèges techniques, grosso modo être administrateur d'un poste ou avoir un compte dans le réseau de l'entreprise, un compte de domaine un peu plus privilégié dans l'entreprise, devenir administrateur de domaine. Ça, il y a plein de techniques qui sont documentées. Ça se fait, des fois, c'est plus compliqué que d'autres, mais en général, ça se fait assez bien. La sécurité des réseaux internes, c'est, on s'en plaint pas. On va dire que, voilà.
Donc, vous avez tout l'accès sur le périmétrier qui est à l'intérieur. C'est un peu un gros gruyère. Du coup, nous, on est content. Une fois qu'on a posé un pied en intérieur, souvent, il n'y a plus grand chose qui va nous arrêter. Malheureusement.
Et donc voilà, on arrive à devenir administrateur de domaine. Et le but, c'est vraiment d'être l'administrateur pour se déplacer plus facilement où on veut. Alors, quand il y a plusieurs domaines aussi dans des grands groupes, on va compromettre tous les domaines un à un et essayer d'atteindre nos objectifs une fois de plus.
Ça nous est arrivé de compromettre une entreprise en Australie pour remonter jusqu'à la cible en France. Donc Alors, les délais sont horribles, du coup, parce que... Forcément, on ne charge pas un truc graphique sans savoir exactement ce qu'on veut charger, parce que c'est très coûteux.
Et enfin, on arrive à la partie trophée dont avait parlé Sylvain tout à l'heure. Ce qui est à noter, c'est que des fois, il y a des trophées où on est censé passer par cette compromission du domaine global, avoir des accès privilégiés pour aller sur un serveur particulier et ou alors compromettre le poste d'un client et envoyer un mail à sa place. Ça peut arriver, mais des fois, il suffit simplement d'un compte de domaine. On se connecte à un partage réseau et sur ce partage réseau, il va y avoir les documents sensibles auxquels on ne voulait pas accéder.
Oui, il y a des fois, il y a des PDG, on leur dit c'est rien, on a pris le contrôle de l'admin, l'informaticien, quoi, parce qu'on lui traduit un peu, et on a usurpé ses accès et on a accédé à vos documents ultra sensibles. Et lui, il tombe un peu de sa chaise en se disant, attendez, les informaticiens, ils peuvent accéder à tout ce qu'ils veulent ? Oui. Et c'est parfois, on est en train de faire un exposé de 2 mois de Red Team pendant 1h30 à une direction et on se rend compte que ce petit lien qui paraît facile pour tous ceux qui travaillent dans le monde informatique n'est pas forcément très évident pour un dirigeant d'une grande entreprise. Donc quand on lui dit « si je prends le contrôle de ton informatique, j'ai accès à tout ce que je veux », c'est pas toujours facile à comprendre. Si je prends le contrôle de tes serveurs, je peux arrêter ta production, c'est pas facile à comprendre. Il y en a certains qui disent, bon, l'informatique, demain, on fait 100. Non. Et aujourd'hui, encore en 2022, il y a encore quelques dirigeants d'entreprise qui sont persuadés qu'ils peuvent toujours revenir en arrière et faire fonctionner leur boutique sans l'informatique. Non, mais c'est pas grave, on sera en mode dégradé. Non, mec, t'es en mode zéro, tu fais plus rien. En fait, il n'y a plus rien qui fonctionne.
Et donc, sur les trophées ou les putains, en général, il y a pas mal de créativité quand il s'agit de trouver des informations sensibles. Donc, ça va soit être sur des partages, soit sur des SharePoint, pardon. Soit sur des SharePoint, on va se balader. En fait, ce qu'on aime bien faire, on cible d'abord les personnes qui ont accès à ces données sensibles, ou du moins qui sont censées avoir accès. On se connecte à leur machine et on va dans leur navigateur. Normalement, dans leurs onglets, il y a tous les sites qu'ils ont enregistré et sur lesquels il y a de la donnée intéressante.
Voir les mots de passe dans leur keyring, dans leur trousseau de navigateur, facile à récupérer.
Parfois assez courant, par exemple la suppression des sauvegardes, on nous le demande. C'est souvent lié à un défaut d'architecture, vu que les sauvegardes ne sont pas censées être accessibles depuis le réseau Active Directory, enfin en tout cas le serveur qui stocke toutes ces sauvegardes. Mais des fois ça arrive, donc on peut les supprimer et ça peut avoir un impact. D'autres scénarios, c'est l'envoi du mail depuis le poste du PDG. Ça, ça peut se faire aussi assez simplement, vu qu'à partir du moment où on a compromis l'environnement Active Directory, on peut déposer, on peut prendre le contrôle de la machine et on a des petits outils qui nous permettent d'envoyer des mails à la place de quelqu'un. Et c'est complètement transparent. La personne va travailler sur son poste et juste l'espace de une demi-seconde, vous allez voir la petite barre de chargement en dessous qui affiche envoi d'un message. Et puis, au bout de ça, à l'expiration de cette demi-seconde, ça ne s'affiche plus.
Ouais,
si vous n'êtes pas attentif à votre Outlook en permanence, bah, vous n'allez pas le voir.
Ouais, typiquement, on peut piloter totalement Outlook sous le capot en PowerShell. Donc, ça ne se voit pas pour quelqu'un et on s'est amusé plein de fois à envoyer des mails à la place de. Voilà, envoyer au PDG de la part du RSSI. Si tu vois ce message, c'est que je me suis fait usurper ma boîte. Ouais, c'est assez facile à faire. Donc, vous imaginez un peu tous les scénarios qu'on peut faire après en cascade du phishing interne. Pour revenir sur la sauvegarde juste avant, ce scénario, il nous est demandé souvent pour vérifier la résistance au niveau des cryptolockers. Est-ce que si demain, je me prends un cryptolock, enfin, si demain, je me prends un attaquant qui en vient à me cryptolocker parce qu'il a pris le contrôle de toute ma boîte, est-ce qu'en plus, potentiellement, il peut me faire mal en coupant en mettant à mal toutes mes sauvegardes, soit en les détruisant, soit en les cryptolockant aussi au passage et que du coup, je ne pourrais pas restaurer. Et ça, c'est vachement intéressant comme scénario parce que bah, c'est un peu quelque chose de nos jours, quoi.
Et enfin, ça, c'est des commandes d'usine de traitement des eaux usées à votre du coup, droite et commandes d'usine de désalinisation. Ça, c'est des choses en fait, qu'on peut trouver sur Internet qui peuvent faire partie des trophées. Et des fois, il n'y a même pas besoin de passer par la compromission de votre réseau interne pour y accéder. C'était la conclusion de cette partie-là.
Ouais, je vous jure que c'est des vrais screenshots, de vraies structures exposées sur le net. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, bah, c'est un industriel.
Et au final, ça reboucle sur ce qu'on disait de l'intérêt de faire des red teams, dans le sens où vous allez passer en revue un peu tout ce que vous exposez. Alors nous, on ne vous fera pas un rapport exhaustif, comme on disait, vu qu'il nous faut une brèche et on va vous expliquer tout le chemin qu'un attaquant réel prendrait. Mais quand on voit des choses comme ça, bon, on vous remonte aussi. Et si ça fait partie des objectifs, bah, il y a d'autant plus de raisons de vous le remonter.
Dernièrement, on a montré à un client qu'il avait un réseau Wi-Fi vulnérable à une attaque dans les deux sens. À la fois, on pouvait prendre le contrôle de son réseau Wi-Fi et à la fois, on pouvait se faire passer pour son réseau Wi-Fi et attaquer ses clients. Et on lui a montré que c'était valable dans le monde entier. Et là, il nous a dit « Ouais, mais ça va, vous savez pas où je suis. » On lui a montré Wiggle. Il a fait « Ah ouais, ouais, si vous savez. Ouais, » ouais. Et quand on a dit ça au RSSI, au DSI, bien entendu, ils nous ont dit non, c'est faux. On leur a dit ok, on vous montre. On a démarré, on a récupéré tous les gens locaux et on leur a dit ça, c'est le mot de passe de lui, de lui, de lui, de lui. Il a fait ah ouais, c'est peut-être vrai en fait. Souvent, on ne nous croit pas, je ne sais pas pourquoi. Du coup, il y a déjà quelqu'un qui nous a dit ça, c'est un faux screenshot, il a été monté. Ok, on te montre les 50 précédents et les 50 suivants et c'est parti. Et, souvent, ils nous disent ah ouais, non, ça n'a pas été monté. Repart.
On arrête de vous assassiner, on vous montre juste une dernière slide qui sont les bâtons dans les roues qui nous empêchent bien d'avancer en général quand ils sont bien faits. La première, c'est des antivirus et EDR bien déployés. C'est bête, mais quand c'est bien configuré, on va pas forcément s'amuser à contourner les antivirus. C'est un niveau de compétence supplémentaire. Alors certains peuvent le faire, mais c'est très très spécifique. Et bah, des fois, il y a des chemins un peu plus faciles que ça. Donc, on s'épargne le contournement d'antivirus. Ouais,
et puis, il y a un risque non nul de faire péter un truc qui va lever une alerte. On ne sait pas trop comment ça marche. On peut passer notre chemin.
Mieux vaut passer là où il n'y a pas d'antivirus que d'essayer de contourner des endroits où il y en a, effectivement. Bah, sinon, il va y avoir les mots de passe robustes. C'est classique. Et quand j'entends robuste, c'est pas avec le nom de société 2020 point d'exclamation dollar à la fin. C'est vraiment des mots de passe robustes, que ce soit pour des services ou pour des utilisateurs. Ça limite considérablement nos champs d'action. La dernière fois, par exemple, on faisait un mini red team, pour le coup, où la politique de mot de passe était bien, mais voire tellement bien, qu'il y avait un changement de mot de passe tous les 30 jours. Et finalement, bah, c'était dans un pays étranger, donc on a pris tous les mois dans la langue du pays qu'on auditait, et on rajoutait le mois, l'année, et on a trouvé quelques comptes comme ça. Donc à partir de ce moment-là, on avait quelques noms d'utilisateurs dans le domaine, et on a pu propager nos attaques. Donc
filtrage réseau, ouais, ça c'est un truc qui est vraiment aujourd'hui, ça a l'air complètement fou. On est en 2022, ça devrait faire 20 ans que le filtrage réseau il est carré. bah, en fait, il n'est pas du tout carré. La plupart des entreprises, elles ont un réseau à plat. On pirate l'Australie, le Canada, le Mexique. Et après, une fois qu'on est à l'intérieur, c'est un moulin à vent. Et le problème, c'est que ça expose des services. Il y a vraiment des systèmes d'accès exposés worldwide, des systèmes d'administration, des SSH ouverts à tout le monde, des Active Directory ouverts à tout le monde, des partages ouverts à tout le monde. C'est terrible, mais le filtrage réseau, le filtrage et les mots de passe, c'est les deux choses sur lesquelles il y a un vrai travail à faire, alors que finalement, on pourrait penser que c'est les plus maîtrisés.
Autre point qui me semble intéressant, c'est la 2FA sur les applications critiques. Souvent, on nous demande de tester, justement, pour faire des virements bancaires. Les applications bancaires, c'est des clients lourds qui sont vieux et qui sont plus trop tenus à jour. Il n'y a pas de fonctionnalité de 2FA existante dessus. Donc, nous, une fois qu'on a trouvé un moyen d'accéder au serveur ou au poste de la personne qui utilise ce client lourd, on s'y connecte, on réutilise les mêmes jeux de mots de passe utilisateurs AD et mots de passe Active Directory. On se connecte et comme il n'y a pas de 2FA, on peut effectuer un virement symbolique, par exemple.
Ouais, et c'est là où c'est assez drôle, c'est que parfois, on peut avoir un 2FA présent sur l'applicatif, sauf que la base de données qui est derrière, elle est supportée par un serveur qui, lui, n'est pas en 2FA. Donc, on prend le contrôle du serveur, on rentre dans la base de données, on inscrit correctement la bonne ligne qui va bien, on en copie une, on modifie juste le RIB et le montant, et ça passe dans le système complet. Donc, c'était génial. Ils ont fourni des calculettes à 200 personnes pour être sûr et certain que jamais personne ne détourne ça. Ouais, sauf que le serveur qui, lui, supporte la base de données, il est ouvert, quoi. Il faut y penser un peu à se dire, j'ai mis une super porte, sauf que la fenêtre derrière, elle est fragile. Parfois, on va faire une première phase où on va se mettre d'accord sur toutes les informations, tout ce qu'on a trouvé, on fait une première signe d'autorisation, et puis si on doit aller plus loin parce qu'on a tiré une petite pelote et qu'on est arrivé à un certain degré de prise de position et qu'on a besoin d'aller taper dans un service tiers, on fait signer le client. C'est le client qui prend la responsabilité de nous laisser faire. Après, on essaie de faire des choses professionnelles, donc normalement, on n'a quand même pas un impact conséquent. Mais si le service est managé, effectivement, en extérieur, ça arrive souvent. On continue. Si c'est de la donnée qui appartient au client, techniquement, ça lui appartient. Voilà, il faut que ça respecte un peu des contrats. Souvent, il va aller voir les contrats, il va vérifier. Souvent, il y a le légal qui est au milieu. Dans nous, quand le DG nous autorise à faire ça et que le DSI, RSSI ou même l'inspection générale, l'audit interne, souvent, ils mettent dans la boucle légale parce qu'ils veulent que la direction légale soit d'accord pour ce qui va se passer.
Merci d'avoir participé, merci d'avoir été présent. Si vous avez des questions, on peut discuter, les discussions sont ouvertes.